tous, conseil municipal avec un ordre du jour pas très chargé mais très important, hein, deux gros dossiers qui ont nécessité beaucoup de travail en amont, beaucoup de négociations, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Je vais évidemment procéder comme d'habitude à l'appel. Monsieur Olivier Bonduel.
Présent.
Merci.
J'ai une petite question à poser avant. Là, je vois qu'il y a eu une modification des ordres autour de la, du conseil municipal. Et je voudrais savoir si Madame Lamondé fait partie de l'opposition ou fait partie de la majorité.
Un, c'est pas le moment de poser cette question. Et deux, c'est une question qui s'adresse à Madame Lamondé.
Non, parce que les emplacements dépendent de vous, Monsieur le maire, non ?
Madame Lamondé a demandé à être placée à cet endroit-là, donc j'ai accédé à sa demande.
Je crois quand même que les groupes d'opposition sont prioritaires sur la position individuelle. J'aurais théoriquement sa place aurait été ici. C'était les groupes qui auraient dû se rapprocher.
Je ne gère pas ce qui se passe dans l'opposition. Je ne pense pas que ce soit stratégique non plus pour le conseil municipal. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est que Mme Lamondé se sente bien dans son rôle de conseillère municipale à l'endroit où elle a envie de siéger.
Bien.
Ça vous va comme réponse ?
Bon, j'espère que ces remarques sont très intéressantes.
Mais elles le sont toujours. Hein. Elle est conseillère municipale depuis déjà quelques années. Et donc, on a eu le temps de s'en rendre compte, M. Bonduel. Merci. Mme Marie-France Bagarre. Monsieur Marc Lerouzic, je répète.
Il est représenté par moi.
Merci. Un peu d'attention quand même, monsieur Bonduel. Madame Christine Lamondé.
On a le droit d'être sourd. Hein.
Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Janine Le Golvan. Monsieur Charles Biétry, absent. Madame Marie-Vonne Belleuil. Monsieur Biétry a laissé un pouvoir à monsieur Lejean, je crois, hein, c'est ça ? Delphine ?
Oui.
Parfait. Monsieur Philippe Audeau, absent, pouvoir à monsieur Marc Albert. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotaudet. Madame Christine Desjardins, absente, pouvoir à monsieur Paul Chapelle. Monsieur Michel Durand. Madame Morgane Petit, absente. Monsieur Gérard Marc Albert. Madame Karine Le Déveat. Madame Françoise Le Pennec. Bon anniversaire, madame Françoise Le Pennec. C'est l'anniversaire de madame Françoise Le Pennec aujourd'hui. On ne lui demandera pas son âge, ça ne se fait pas pour une jeune femme. Mais bon anniversaire, Françoise. Et d'ailleurs, puisque c'est mon anniversaire, tu as gagné le titre de secrétaire de séance que je te proposerai à l'issue de l'appel. Ce n'est pas notre cadeau, mais c'est tout comme. Monsieur Hervé Le Donnant, absent pouvoir, monsieur Olivier Le Pic. Madame Monique Thomas. Monsieur Jean-Luc Servet, absent pouvoir à Nadine Rouet. Madame Nadine Rouet. T'en es sûr ? D'accord. Monsieur Pascal Lejean.
Présent.
Madame Armelle Moreau. Présent. Monsieur Louis Coudois, pouvoir à Madame Marie-Vonne Belleuil. Madame Sylvie Robineau.
Présent.
Monsieur Paul Chapelle.
Présent.
Monsieur Olivier Lepic, présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer et je propose donc à Madame Françoise Le Pennec d'être notre secrétaire de séance. Cadeau. Merci Françoise. On va donc commencer l'ordre du jour de ce conseil municipal par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2016. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès verbal ? Je crois que grâce à l'enregistrement, on commence à être un peu rodé sur ces procès verbaux et c'est difficile effectivement d'y trouver, comme c'était le cas avant, peut-être des imprécisions. Il est approuvé à l'unanimité ? Je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire prises en vertu des délégations par le conseil municipal. Vous avez donc trouvé l'ensemble de ces décisions qui portent les numéros 146 à 161. Et j'imagine qu'il y a des questions sur ces décisions du maire. Madame Lamondé.
Pas lui, voilà. Mise à disposition d'un éducateur sportif. J'aurais aimé comprendre l'intégration dans le cadre des aides offertes aux associations. Est-ce que c'est une aide qui est récurrente ? Est-ce que c'est nouveau ? Comment ça s'est intégré ?
Alors effectivement, c'est une aide qui est récurrente puisque depuis déjà plusieurs années, Monsieur Leny est mis à disposition du club au terme d'une convention, je crois, qui avait été mise en œuvre il y a, c'est même pas la municipalité précédente, ça devait être la municipalité d'avant, à Nivonne,
hein, oui.
Ouais, ça fait très longtemps et c'est donc quelque chose qui existe depuis de plusieurs années. C'est exactement les mêmes dispositions, seul le tarif a changé, je crois, cette année. Il a été réduit.
D'accord, je vous remercie.
Augmenté. Il a été révisé.
Oui, enfin, au bénéfice du club. Enfin, voilà, c'est moins intéressant pour le club. Voilà. D'autres questions sur ces...
Oui,
Madame Bagarre.
En ce qui concerne les numéros 147, 148, 149... Les locations des logements communaux ont des tarifs différents. Qu'est-ce qui motive
C'est la taille du logement qui motive la différence de loyer.
La taille du logement, voilà. Ah, d'accord.
Les grands appartements sont plus chers que les... C'est un ratio qui est rapporté au mètre carré de l'appartement.
Oui, mais 3,50 euros, c'est la nuit.
Ça dépend si c'est à la nuit, au mois. Enfin voilà, il y a des tarifs qui existent. Vous pouvez les consulter d'ailleurs.
Ok. Merci. Je trouvais qu'il y avait une distorsion quand même importante entre la personne qui paye 283,57 hors charge par mois et celle qui paye 3,50 par exemple ou 5 euros à la nuit. Ça fait presque du simple au double. Hein,
c'est le tarif communal et ce sont des conditions totalement différentes. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est une nuit pour rendre service à quelqu'un qui vient soit remplir une mission, soit qui a besoin d'être une nuit sur la commune. Soit c'est un tarif qui peut être mensuel avec une location de plus longue durée rapportée donc au mètre carré. Mais c'est un tarif qu'on n'a pas bougé. Hein, il est toujours le même.
Okay. Et aussi, parce que je reviens toujours sur les honoraires d'avocat, c'est ma spécialité, ça y est, maintenant on me refile ça. Les honoraires d'avocat à la décision 152, pourquoi y a-t-il eu besoin d'une consultation pour le PPRL? Il n'était pas déjà...
On est bien sûr qu'il est en vigueur, mais on est toujours dans une phase de tentative de modification de ce PPRL. Vous savez qu'on a fait estimer des travaux sur la Grande Plage, et donc l'objectif de la commune, c'est de réaliser ces travaux dans le cadre de la rénovation du boulevard de la Plage, et d'ensuite de demander à l'État, une fois que ces travaux auront été accomplis, puisqu'il y aura... je dirais en théorie, plus de brèche, une modification du CPPRL. Et donc nous avons besoin que ces travaux soient absolument irréprochables au regard de la procédure administrative qui pourrait s'engager à l'issue de leur réalisation. Et donc on a besoin d'avoir des conseils d'avocats pour éviter de faire des erreurs et de faire des travaux qui ne seraient pas, je dirais, l'état de l'art de ce que l'État attend et qui nous donneraient les meilleures chances pour réviser et modifier ce PPRL.
Ok. Et puis, j'ai aussi une autre question concernant la 160, mais on y reviendra sûrement après. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi la même société pour le même bureau d'études pour l'étude de l'avenue 1000 et le boulevard de la Plage?
Mais tout simplement parce qu'il y en a un qui est spécialisé dans l'aménagement balnéaire et l'autre qui a un tropisme plus commercial.
Ok.
D'autres questions? Monsieur de Ripper.
La décision 151.
Oui.
Donc je tenais à préciser que cette décision a été prise à l'encontre de l'avis de la commission de travaux, qui avait émis un avis défavorable, dans la mesure où elle estimait qu'il était un petit peu prématuré d'engager des frais sur ce bâtiment qui va être intégré au 1er janvier dans le giron d'ACTA.
Oui.
Personne ne sait à l'heure actuelle si ACTA conservera à Carnac deux offices de tourisme.
Oui.
Et je ne pense pas que la représentation de Carnac, qui est de 4 voix sur 18, permettra de le garantir ensuite.
Alors, je vais faire une réponse très très simple, et je pense que beaucoup de conseillers municipaux vont l'apprendre aujourd'hui. Le siège de l'Office du tourisme intercommunal sera situé à Carnac-Plage.
Et la décision a été prise quand ?
Hier après-midi.
Hier après-midi, dans le cadre du conseil communautaire?
Pas du tout.
Cette décision a été prise dans quel cadre alors?
Avec Philippe Leray, M. Bernard Hilliette et un certain nombre d'autres représentants de la SBL. Bien sûr.
Si jamais on arrive à voir Kergroix, est-ce que ça se sera maintenu? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est Kergroix, parce qu'on essaye de se battre.
Tout à fait.
Donc, c'est pas encore sûr, parce que moi, j'ai bien compris, je me suis assez battu pour Kergroix. Si on peut l'avoir, ce serait mieux qu'il soit là quand même. Voilà. Donc c'est pour l'instant, ce n'est pas encore défini.
Si, si. Le fait que l'office du tourisme, que le siège sera à Carnac Plage dans les locaux de la plage, c'est définitif.
Oui, mais c'est un siège. Mais le back-office sera où ?
À Carnac Plage.
Et donc, ça ne sert à rien qu'on achète Kergroix.
Mais si, si, parce que Kergroix, on n'est pas obligé.
Oui, mais si jamais. On avait prévu, moi, je n'avais pas compris ça. J'avais compris que si jamais on avait Kergroix, tout serait à Kergroix.
Il y a plein d'autres choses à faire à Kergroix. Et moi, je suis toujours partisan d'acheter ce bâtiment. Mais pour l'instant, il faut se contenter de cette réponse, qui est donc que la décision a été prise, que l'office du tourisme intercommunal sera situé dans le bâtiment de Kergroix.
Parce que moi, je l'avais demandé également. J'avais dit à Philippe Leray, de toute façon, je l'ai appelé la veille en lui disant, si on ne peut pas avoir à Kergroix, il faut absolument qu'on l'ait à Carnac Plage, parce que sinon ça se passera très mal.
Je dois dire. Et merci de ton aide, Monique, dans ce dossier.
Parce que je ne fais pas toujours des choses bien, mais enfin, quand je l'en fais, j'aime bien qu'on le souligne. Hein. Non, mais franchement, je me suis franchement battu pour ça. Hein. J'ai eu des conversations avec Philippe, parce que bon, j'ai des rapports assez...
Je viens de te remercier, Monique,
pour ton aide. Non, mais je voulais préciser, parce que je pensais que s'il y avait Kergroix, tout allait à Kergroix.
Tu as bien compris que le dossier Kergroix est très complexe. Et donc,
on va s'en sortir.
Il faut, oui, j'espère.
Quand on a vu l'argent qu'on met pour la culture hier, on se demande que Kergroix, c'est pas grand-chose.
Je m'en suis occupé, je pense, hier, du dossier Kergroix au conseil communautaire.
Oui.
Monsieur de Ripin.
Oui, je me posais la question quand même de savoir à quoi servait le conseil communautaire, à quoi allait servir le conseil d'administration de la SPL, dans la mesure où ce type de décision, contre laquelle je ne m'élève pas, hein, c'est sur la forme que je m'élève. Comment ça se fait que ce type de décision peut être prise en petit comité ? Vous me laissez terminer,
monsieur ? Oui, bien sûr.
Comment ça se fait que ça peut être prise, cette décision peut être prise en petit comité, c'est-à-dire
votre,
à trois
votre
personnes.
Votre réaction est très caractéristique, en fait, de l'ensemble personnes. De votre action municipale. C'est que n'importe quel conseiller municipal de base se réjouirait de cette décision.
C'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire. Ne me dites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce que je viens de faire. J'ai dit que je m'en satisfaisais parfaitement.
Gardez votre calme, monsieur. Gardez votre calme.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Gardez votre calme.
Et donc, la question que je pose, est-ce que c'est normal que cette décision soit prise en petit comité ?
Je ne suis pas le président de l'intercommunalité, monsieur de Ripin. Je suis simplement le maire de Carnac qui essaye de défendre les intérêts de sa commune. Donc je disais donc, n'importe quel conseiller communal se réjouirait de cette situation qui n'a pas été facile à obtenir, vous pouvez l'imaginer. Et je m'étonne encore une fois, mais comme d'habitude, que effectivement, plutôt que de vous réjouir pour votre commune, dont vous êtes conseiller municipal, vous vous lancez dans des arguties pour savoir dans quelle instance devrait être décidée cette. Vous savez que ce dossier, il avance à vitesse grand V. On est dans une contrainte calendaire qui est extrême. La SPL doit être créée le 1er janvier. L'ensemble des salariés seront sur la masse salariale de cette nouvelle structure. Ça va être extrêmement compliqué. Donc oui. On avance, on prend des décisions, on se réunit, pas en conseil communautaire, parce que de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas le conseil communautaire qui prend ce genre de décision, ce sera la SPL. Donc, on a déposé des statuts, on avance, on travaille, et moi, j'essaye de travailler pour Carnac. Donc, je ne vais pas commencer à sombrer dans un débat qui est complètement, stérile à l'égard de la défense des intérêts de la commune. J'essaye de défendre les intérêts de ma commune. Quand je peux le faire, je le fais. Voilà, c'est tout, monsieur de Ripin. Et vous devriez vous en féliciter.
C'est ce que j'ai fait en préambule, monsieur le maire, je vous le rappelle.
C'était tellement discret qu'effectivement, ça ne s'est pas tellement senti. Ah bah. Louis va mieux, alors.
Oui.
Tant mieux.
Plus proche.
Moi, qui étais là, et qui est quand même à l'initiative, on ne m'a rien dit non plus. Je l'ai découvert.
Bien sûr.
On aurait peut-être pu me le dire, parce qu'on m'avait dit, on va voir ça avant. Moi, j'étais à côté de Bernard Rivière. J'aurais été contente en plus. Alors, j'aurais peut-être pas eu les mêmes réactions vis-à-vis de Kergroix si j'avais su ça. Bon, c'est comme ça. Parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. J'aurais rien dit.
Tu l'as su à quelle heure, Monique?
Je l'ai su quand tu m'as envoyé le mail.
Ben oui, mais c'était déjà décidé entre midi.
C'était pas un mail,
le matin.
C'était
déjà décidé le matin. Parce que tu...
Non.
Ça a été décidé dans l'après-midi?
Sinon, je te l'aurais dit.
Dans l'après-midi?
Ça a été décidé 5 secondes après que tu aies reçu le SMS.
Hier soir?
Oui.
Ah, d'accord. Parce que je pensais que ça a été décidé le matin.
Non.
D'accord. Bon, merci.
Mais de rien. D'autres questions sur les décisions du maire?
C'est pas sur une décision du maire, mais je me permets d'intervenir aussi. Je me réjouis, bien sûr, mais... Sur le fond, je trouve que quand même, la démocratie, c'est aussi la transparence. Et j'ai du mal à accepter, moi, l'idéaliste peut-être, que les décisions se prennent comme ça. Bah, y a des tas d'autres communes, certainement, qui vont mal le vivre. Et bon, ça peut se comprendre aussi. Hein. Même si je me réjouis qu'évidemment...
Madame Bagarre, c'est pas de la naïveté. On est dans une intercommunalité. Il y a 26 communes. Chacun défend ses intérêts. Et une bonne intercommunalité, c'est une intercommunalité dans laquelle on est capable de porter un projet commun qui soit pour l'ensemble des communes, mais en même temps qui défend les intérêts individuels de chaque commune. Carnac représente quasiment... avec Quiberon, 80% des recettes touristiques. Et les autres maires l'ont parfaitement compris, puisque nous avons demandé une majorité au sein de la SPL, qui n'a pas été facile à négocier, c'est évident, hein, parce qu'il faut un équilibre entre toutes les communes. Cet équilibre, il a été assez complexe à trouver. Il n'a été jamais débattu, je dirais, en conseil communautaire. Ce sont des négociations qui se sont faites, comme dans toute organisation et dans toute collectivité, pas dans l'antichambre, parce que tous les maires ont été associés, mais ça a été fait en bureau des maires, ça a été fait de manière totalement transparente et démocratique. Et vous imaginez bien que quand le vote arrive en conseil communautaire, l'ensemble des maires ont donné leur accord, et que c'est pour ça d'ailleurs que ces statuts ont été votés à l'unanimité. Mais encore une fois, l'important, c'est de se retrouver dans une situation où les intérêts de l'intercommunalité et de la commune sont défendus. Je me suis élevé par le passé, et notamment dans le cadre de la négociation du nombre de représentants de chaque commune dans l'intercommunalité, parce qu'il me semblait que la municipalité précédente n'avait pas bien défendu les intérêts de la commune, dans la mesure où nous avons aujourd'hui que 2 représentants sur 58, alors que nous sommes le principal contributeur fiscal, c'est-à-dire que c'est le contribuable carnacois qui verse le plus d'argent en volume à l'intercommunalité, et que parce qu'on avait choisi le ratio de la population INSEE et pas le ratio de la population DGF, nous étions sous-représentés par un autre poids. Ça aussi, ce sont des négociations qui se sont faites, je dirais, pas en toute transparence, hein, on l'a appris au dernier moment, parce que bah, quand on constitue ce genre de choses, il n'y a pas d'arène dans laquelle on débat de ce genre de choses. Et ce genre de choses, d'ailleurs, n'ont pas vocation à être débattues en public. Quand on est dans un conseil communautaire, vous imaginez bien que M. Leray, il n'a pas envie forcément que certaines questions soient débattues devant la presse, en public. Et donc, bah, ça, c'est dans d'autres instances, comme le bureau des maires, mais c'est totalement démocratique aussi. Maintenant, la défense des intérêts d'une commune, c'est à la fois encore une fois, un équilibre entre l'intérêt communautaire, et je pense que l'intérêt communautaire, c'est que des stations qui sont les stations, les marques emblématiques de ce territoire, que sont Carnac, Quiberon, la Trinité, et qui seront les locomotives. On ne va pas faire une... et c'est ce que le département a bien compris, et Patrick Lévy est venu nous l'expliquer en conseil communautaire, c'est que ce sont les locomotives qui tirent le tourisme sur l'ensemble du territoire, et une fois que les touristes sont sur la côte, parce qu'on vient... on vient sur la côte pour la plage, on vient pour le caractère balnéaire. Une fois qu'ils sont là, c'est à ce moment-là que l'office intercommunal va jouer son rôle pour irriguer l'ensemble du territoire et, si possible, les faire découvrir les jours où il fait un petit peu moins beau, bah, la forêt de Camors, la Ria d'Etel. Et c'est ça l'intérêt communautaire, c'est d'être plus fort ensemble. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'être plus fort ensemble en dilapidant les intérêts de la commune de Carnac. Et c'est ce que j'essaye de faire quand on obtient ce genre de choses, parce qu'il me semble que nous sommes, avec Quiberon et la Trinité, le centre de gravité du tourisme du territoire. Monsieur Bonduel ?
C'est tout à fait regrettable que ce ne soit pas à Kergrois quand même. Hein, parce que si j'ai bien compris les articles de presse, c'est une société privée qui aurait donc surenchéri au mieux.
Alors, le dossier... Alors,
il y a aussi, donc, si j'ai bien compris aussi, la presse de ce matin sur le Télégramme Ouest-France... Il y a une constitution d'un petit groupe pour défendre Kergrois auprès du département.
Alors, je vais vous expliquer le dossier, puisque j'en suis le principal défenseur avec Monique au sein de l'intercommunalité, mais on n'est pas le seul, hein, il y a beaucoup de maires qui partagent notre avis. Moi, ça fait déjà plusieurs semaines que nous militons pour cette acquisition par intercommunalité. Pourquoi ? Ce problème d'acquisition est intervenu quand, à partir du 15 juillet, à cause des modifications questions législatives, nous avons réalisé que le premier schéma, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'organisation touristique qui prévoyait que les communes classées restent à l'écart et conventionnent avec un office du tourisme intercommunal, a volé en éclats au moment où on s'est rendu compte que eh bien, le schéma qui était proposé n'était pas forcément le plus satisfaisant ni pour le territoire ni pour les communes. Donc, à partir de la mi-juillet, l'idée d'un office intercommunal unique est arrivée sur la table, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, dans ce cadre, on a été un certain nombre de maires à penser que le site de Kergroix aurait pu être un endroit stratégique pour installer cet office intercommunal. Pourquoi ? Je pense qu'on le sait tous, on est carnacois. Le 15 août, il y a plus de 70 000 voitures qui passent à cet endroit-là. Et donc, dès une réunion qui s'est déroulée, je crois, le 12 août, avec M. Bernard Hillette, Gérard Pierre, Philippe Leray, et puis moi-même, j'ai, à ce moment-là, mis le dossier sur la table en disant qu'il me semblait qu'il pourrait être intéressant pour l'intercommunalité d'acquérir ce bâtiment pour un office intercommunal ou pour autre chose. Dans la mesure où on a un bâtiment qui appartient au conseil départemental et qui se situe dans un endroit, auprès de la route la plus fréquentée de l'intercommunalité, il me semblait que c'était un endroit stratégique pour faire de la communication, pour y mettre une infrastructure liée à l'intercommunalité. Il se trouve que le conseil départemental avait lancé un appel d'offres à projet déjà depuis plusieurs mois au moment où cette question est arrivée sur la table. Et donc, effectivement, début septembre, à l'issue de cette réunion, Philippe Leray a effectivement pensé que c'était une bonne idée et il a manifesté sa volonté de garder un contrôle intercommunal sur ce bâtiment et s'est rapproché du conseil départemental. Le conseil départemental avait lancé un appel d'offres chez un notaire et donc un certain nombre d'acquéreurs potentiels avaient déjà déposé des offres début septembre. Des offres dont je ne peux pas parler, mais vous avez bien compris qu'elles étaient valorisées de manière relativement importante, puisque je crois que la presse évoque 445 000 euros, je crois, ce matin, puisque c'est les chiffres qui ont été cités hier. Et donc, les négociations Philippe Leray a mené, et moi-même, avec François Goulard, un certain nombre de négociations, et immédiatement, la position du département a été très claire, et de dire, si l'intercommunalité veut acheter ce bâtiment, eh bien, il faudra se positionner au même prix que l'offre la plus élevée que nous avons reçue. J'étais pas tout à fait en accord avec François Goulard sur cette position, et je le lui ai dit. Je lui ai dit qu'à partir du moment où c'était une collectivité qui se positionnait, il me semble qu'on pouvait entrer dans une négociation de bon aloi entre collectivités territoriales pour essayer d'avoir un prix un petit peu inférieur. Ça n'a pas été le choix du conseil départemental. Et donc, l'intercommunalité s'est trouvée dans une situation un petit peu bizarre, et M. De Ripper était là hier en conseil communautaire, parce qu'il y a une estimation des domaines qui a été faite de ce site, et l'intercommunalité est tenue, comme nous le serions nous d'ailleurs aussi, hein, puisque dans n'importe quelle acquisition par une collectivité, le juge estime que la collectivité ne peut pas déroger dans une certaine proportion à l'estimation des domaines. Or, l'estimation des domaines est totalement hallucinante pour ce site, puisque les domaines l'ont estimé à 50 000 euros. Et c'est ce que j'ai fait remarquer hier en disant qu'il fallait peut-être quand même que les domaines se réveillent et fassent un travail un petit peu plus réaliste compte tenu, je dirais, de la réalité du marché. Parce que quand on fait une estimation à 50 000 euros et derrière quelqu'un, deux, c'est pas seulement un seul, hein, parce qu'on aurait dit s'il y avait une seule personne qui avait fait une estimation à 450 000, on dit ben, c'est un farfelu. Mais là, il y en a deux. Ça veut dire que le marché, la réalité de la valeur de ce site, c'est pas 50 000 euros, c'est probablement 450 000 euros. Et donc, il me semblait que, c'est ce que j'ai dit hier, qu'il fallait vraiment qu'on se batte jusqu'au bout pour essayer de conserver ce bâtiment dans un giron intercommunal, et que, alors qu'on nous proposait un rapport qui nous proposait d'abandonner définitivement le projet d'acquérir Kergroix, nous avons réussi, avec quelques élus, hein, et je remercie d'ailleurs Jean-Luc Le Talec, je remercie un certain nombre de maires, également Monique Thomas, connaissez Monique quand elle a un sujet qui lui tient à cœur, elle ne lâche pas, et on n'a pas lâché, et on a réussi, lors de cette séance, à d'abord à faire revenir le président sur le rapport qu'il voulait nous proposer d'abandonner définitivement la possible acquisition de ce site, et nous avons voté une motion, à quasi-unanimité, moins deux abstentions, qui demande une nouvelle estimation des domaines, et ensuite d'entrer, de demander au département, au conseil départemental de stopper la procédure et d'entrer dans une négociation de gré à gré pour pouvoir acquérir le bâtiment. Donc voilà où on en est, mais je crois qu'on est tout à fait d'accord sur ce projet. Maintenant, il est assez complexe, malheureusement, et le fait que cette différence d'organisation du schéma touristique se soit produit mi-juillet a rendu les choses encore plus compliquées. Monsieur Bonduel.
Quand une communauté achète, il y a donc une valorisation des domaines. Oui, d'accord. Mmh. Et quand une communauté vend, non, c'est l'inverse. Quand une communauté vend, il y a une évaluation du domaine, mais quand elle achète,
pareil.
À quel prix ça a été évalué au moment de l'achat par le département?
C'est-à-dire
à l'époque, le département a acheté là,
c'était
à Pierre Maurice.
C'était il y a 15 ans.
Oui. Quelle était la valeur?
J'ai posé la question hier, mais ils n'ont pas pu me le dire. Par contre, la valeur aujourd'hui est ridicule. Ridicule. Ça a été évalué, c'est 50 000 euros. Alors, c'est ridicule parce que les domaines, vous savez comment ils procèdent. Ils procèdent avec... Parce que ça a dû être évalué comme un terrain, quoi. Ils ont procédé comme ils font, sans se rendre sur place. Ils ne se rendaient pas compte de la valeur. La valeur est ridicule. C'est ça, le problème. Et alors, il faudrait que les domaines réévaluent ce chiffre qui est ridicule. Parce que le prix de vente, moi je l'ai posé la question, personne n'a pu me répondre.
Mais de toute façon, le prix de vente, il est tellement ancien qu'il est caduque, parce que le marché a tellement évolué depuis. Enfin, une estimation qui date de 15 ans, on n'a plus aucune
valeur. Oui, mais même 50 000 euros, c'était certainement plus cher.
C'est un problème qu'on rencontre souvent avec les domaines. Hein. C'est-à-dire que les domaines, on a l'impression qu'ils sont dans un bureau à Vannes enfermé, qu'ils ne sortent jamais de ce bureau. Et souvent dans le cadre d'inquisition, que ce soit à Carnac ou ailleurs, on constate une distorsion mais énorme entre la réalité du marché et l'estimation des domaines. Ce qui pose vraiment des problèmes, parce que quand on veut préempter, quand on veut acquérir, comme le juge nous encadre dans une fourchette qui est en général peu ou prou de 20% maximum au-delà de la vie des domaines, bah parfois on est coincé parce que quelque part il y a une proposition du marché libre qui est 9 fois supérieure comme le cas de Cargrois et qui lie totalement la collectivité. Et je c'est ce que j'ai dit à Philippe hier, je comprends parfaitement les arguments de Philippe Leray qui consiste à dire je ne vais pas aller acheter quelque chose qui est attaquable, puisque si effectivement un des deux acheteurs, il faut être totalement transparent, attaquait la décision d'achat, quand bien même l'intercommunalité mettrait 451 000 euros sur la table, je pense que l'acheteur pourrait se retourner aller au tribunal administratif et demander la cassation de cet acte, puisque la collectivité est tenue par la vie des domaines.
Ce qui est quand même invraisemblable, c'est que si les deux sociétés privées vont jusqu'au bout de l'offre, et si une des offres est acceptée, ça veut dire que le public, c'est-à-dire que les communautés, que ce soit département ou ACTA, n'a pas ni la mainmise ni la vue sur le futur acquéreur.
Tout à fait.
Non, mais attendez, c'est quand même, sur un point stratégique, c'est quand même invraisemblable. Ça veut dire que demain matin, on pourrait avoir un stop en douille là, au rond-point. Vous vous rendez compte?
Je fais pas de...
Stop en douille.
Je fais pas de... Je fais pas de...
Avant d'aller à Quiberon, stop en douille.
Mais, monsieur Bonduel, moi, je suis preneur d'une solution, si vous en avez une, hein.
La commune pourrait acheter aussi, si jamais la communauté de communes n'achète pas, la commune pourrait l'acheter et ensuite renégocier avec ACTA. Hein.
Bien sûr.
Ce serait possible. Hein. La commune, parce qu'il y a quand même beaucoup de conseillers communautaires, je vois, et de maires qui ne voient pas la... Pour eux, ça n'a aucun intérêt. On voit bien. Hein. On a bien vu, il y a des maires... Qui,
plus les maires sont éloignés physiquement de l'endroit, et puis... Ce que j'ai essayé de faire comprendre aux maires, y compris au maire de Pluvigny, avec qui j'ai eu une conversation dans la foulée, c'est de dire, imaginez à cet endroit... Un panneau discret, évidemment, mais électronique, dans lequel il pourrait être écrit le 15 août, ce soir à Pluvigny, Fesnoz à 20h30. Il y a 70 000 personnes en voiture, enfin, en général, c'est même 70 000 voitures, donc il y a combien de personnes dans les voitures qui passent à cet endroit-là? Ce serait aussi une manière de créer du flux et d'emmener les gens dans d'autres endroits que le sud de l'intercommunalité. Donc, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Moi, Monique et moi, on se bat depuis depuis deux mois sur le sujet. Alors, quant à la possibilité d'un achat communal, moi, je ne l'écarte pas totalement. Évidemment, je pense que ça a plus de sens que ce soit l'intercommunalité qui l'achète, mais on aura également les mêmes problèmes parce qu'on serait obligé de redemander une étude, une estimation des domaines, et il faudrait qu'on on s'extrait des mêmes difficultés juridiques et administratives dans lesquelles aujourd'hui se trouve ACTA. Donc, mais aujourd'hui, le dossier n'est pas clos, et je suis ravi de voir que vous êtes sur la même longueur d'onde, et que si on peut faire en sorte de garder la main mise sur la nature de l'équipement qui pourrait se trouver à cet endroit-là, je pense qu'il faut qu'on essaye.
Parce que même vis-à-vis des bourgs avoisinants, ça va être atroce. Hein. S'il y a un gros truc là, ça va être épouvantable. Et on entend quand même ce qui doit être fait là, moi ça me fait très 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 peur, je vais vous le dire. Hein. Parce que les bourgs, tout c'est terminé. Hein. Le bourg de Plémel, tous les bourgs aux alentours, c'est terminé. Alors c'est surtout ça, c'est parce qu'on sait à peu près qui va aller là. Hein. Vous savez très bien.
Non, mais contre, je vous demande une extrême discrétion.
Mais je ne dirai pas.
Je vous demande une extrême discrétion parce que, d'abord, ces informations sont chez un notaire qui est le notaire du conseil départemental, et que nous n'avons pas à nous prononcer sur les personnes qui ont déposé une offre.
Dépose une offre à 450 000, c'est qu'elle estime que ça a quand même une grosse importance. C'est pas pour aller faire un cabinet de kinésithérapie, hein, c'est sûr. Hein, faut arrêter. On sait très bien, personne n'est naïf, n'importe quoi. Mais et puis nous, même si on l'achète, après on peut le rentabiliser en louant des bâtiments, parce que le bâtiment tel qu'il est, il doit être gardé. Mais je pense, si je me souviens bien, qu'on peut l'augmenter de 50%.
Non, pas 50.
50%,
un peu moins.
Bref, je ne sais pas exactement, mais on fait quand même. Et le bâtiment est très sain, c'est ce qu'on nous a dit hier, alors qu'au départ, on nous disait qu'il fallait le raser. Hein, c'est ce qu'on nous avait dit, qu'il fallait le raser, et là, hier, quelqu'un a dit qu'il était très sain.
Madame Le Golvan.
Une question, monsieur le maire. On ne peut pas, la loi nous interdit, en tant que commune, de surenchérir sur les propositions de privé ou pas?
On pourrait surenchérir, sauf que, comme je vous l'ai expliqué, on se trouverait éventuellement attaquable parce qu'on est aussi nous tenus par l'avis des domaines. C'est pour ça qu'on a demandé un nouvel avis des domaines, en fait. L'idéal dans cette affaire, c'est que les domaines redonnent un avis, et je pense que, enfin, moi, c'est ce que j'ai dit à Philippe, je vais y aller avec lui. On va dire aux domaines, vous êtes gentil, vous nous faites une estimation à 50 000 euros, on a deux acheteurs à 450 000. Il faut peut-être que vous revoyiez votre offre, puisque, en fait, la réalité, tout le monde le sait, hein, la réalité de la valeur d'un bien, c'est simplement ce qu'un acheteur est prêt à payer. Donc, la première étape, que ce soit pour la commune ou pour ACTA, c'est d'avoir un nouvel avis des domaines, un petit peu plus, je dirais, sérieux quant à la valeur réelle de ce bien. Et ensuite, après, toutes les pistes sont ouvertes.
Quand il s'agit d'un intérêt général, là, puisque on y est, il y a plusieurs communes qui sont confrontées, enfin, pas confrontées, mais qui seraient heureuses que l'office de tourisme soit là, l'OTI soit là, on n'a pas la main, on n'a pas...
Non. C'est dommage, mais non. On l'a, par exemple, dans des zones de préemption prioritaire, mais ce n'est pas le cas à cet endroit-là. Sinon, ce serait fait. Enfin, on n'aurait pas eu ce débat hier en conseil communautaire, évidemment. Monsieur Deripère.
Étant donné que les offres sont déjà remises par les privés,
oui.
De quelle manière est-ce que les collectivités territoriales, que ce soit ACTA ou la commune, peuvent surenchérir sur des offres qui sont déjà remises et alors que l'appel d'offres est déjà clos?
Alors, en fait, ce n'est pas un appel d'offres. C'est pour ça que, justement,
C'est une enchère.
Non, c'est simplement un appel à proposition. Et donc, en fait, c'est un peu ce qui nous sauve, c'est-à-dire que le conseil départemental n'est pas engagé par les propositions. Il peut tout stopper. Si c'était un vrai appel d'offres avec une procédure, là, effectivement, la procédure serait très encadrée juridiquement et le département serait obligé d'accéder quelque part à la vente au meilleur offrant. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas et c'est ce qui nous laisse un petit peu d'espoir. Donc, mais il faut évidemment que le conseil départemental accepte. Hein, parce que le conseil départemental est propriétaire, il peut très bien nous dire, écoutez, vous êtes gentil, mais un, vous vous réveillez trop tard, deux, 450 000 euros pour les finances du département, c'est intéressant. Donc il peut très bien procéder à la vente. Après, il y a une partie, je dirais, de... Tout à l'heure, on reprochait les négociations politiques en coulisses, mais c'est typiquement le genre de choses qui va se faire un petit peu, entre Philippe Leray et François Goulard.
justement, si le conseil départemental proposait ou en tout cas souhaitait les 450 000 euros, est-ce que vous pensez que vous seriez prêt à les mettre vu l'enjeu?
Bah, je pense que c'est pas, enfin, compte tenu de la situation du lieu, ça me paraît pas être une somme démentielle. Donc éventuellement oui. Encore faudrait-il qu'on lève cette prévention qui est l'estimation des domaines. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même je voudrais mettre 600 000 euros, je ne peux pas. C'est ça le problème.
Alors, autre question. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez négocié en arrière-guichet ou en arrière-conseil communautaire intercommunal. Oh là là, je bégaye maintenant. Enfin bref, vous aviez négocié comment que l'OTI soit définitivement à Carnac-Plage. Quand vous dites définitivement à Carnac-Plage, c'est ça qui me prête question, c'est pourquoi on parle de Kergroix, puisque vous, c'est définitivement à Carnac-Plage, c'est ce que vous avez répété à deux reprises.
Mais alors, d'abord, on est dans une phase où un certain nombre de décisions structurelles vont être prises. La composition du conseil d'administration de la SPL, le siège juridique, la présidence, puisqu'il va y avoir un président qui va être élu. Et donc, aujourd'hui, il est important que c'est exactement comme le nombre de représentants de Carnac à l'intercommunalité. Quand on prend un certain nombre de décisions à ces stades de création, une fois que c'est pris, c'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les changer. Aujourd'hui, si Carnac disait « moi, j'ai deux représentants ACTA, ça ne me satisfait pas, j'en veux cinq », vous imaginez bien que c'est tout à fait impossible, parce qu'il faudrait une très large majorité au sein de l'intercommunalité pour revenir sur cette décision. Donc, il est fondamental que, avant le 1er janvier, un certain nombre de décisions soient gravées dans le marbre pour garantir la défense des intérêts de la commune de manière définitive. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, le dossier de Kergroix, on peut avoir différentes opinions, mais moi je reste persuadé que c'est un lieu stratégique, pas forcément pour l'Office du tourisme intercommunal, mais c'est un lieu stratégique sur lequel ACTA devrait se positionner. Aujourd'hui, on va déposer les statuts de la SPL dans quelques jours, et donc il faut prendre une décision. On a deux offices du tourisme à Carnac, on a rénové le premier, on a un projet de rénovation du second, et dans le projet de rénovation du second, moi ce que j'ai proposé à ACTA, c'est de dire on le rénove, on a besoin d'une infrastructure pour accueillir l'ensemble des personnels de la SPL, enfin l'ensemble, en tout cas ceux qui devront siéger au siège administratif, et donc on a cette opportunité de pouvoir réaliser un équipement parfaitement adapté dans une des stations classées, puisque là aussi c'était un élément important, et a fortiori à Carnac, qui est géographiquement, je dirais, plus accessible que Quiberon, puisque Quiberon est, comme on le sait, au bout de la presqu'île. J'ai fait valoir ces arguments. Il se trouve que ces arguments ont été acceptés. Et plutôt que de prendre le risque, quand on connaît le dossier Kergroix et les préventions qui pèsent dessus, je pense que l'intérêt de la commune, et ACTA l'a bien compris aussi, puisque je pense qu'ils sont particulièrement satisfaits du positionnement géographique et le fait d'avoir une infrastructure complètement adaptée à la SPL, ça a été accepté. Donc j'allais dire que j'ai sauté sur l'occasion, et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir avoir cette décision qui est prise maintenant, puisqu'elle elle entraîne un bénéfice pour la commune sur une très longue durée. Et donc stratégiquement, je pense que c'est l'intérêt de la commune de Carnac.
Non, dire que le bâtiment va être complètement rénové, parce qu'actuellement ils sont déjà à l'étroit, on en a souvent discuté, ouais, d'ailleurs c'était l'objet des travaux.
L'occasion fait le larron, en fait, et c'est pour ça aussi je pense que c'est une bonne décision.
Donc 40, les 40 personnes, ce sera le siège administratif, non ?
Il n'y aura pas 40 personnes.
Combien ?
C'est le back-office.
C'est les fonctions support, en fait, l'administratif.
Oui, une vingtaine de personnes. Même pas ?
À l'administratif, 8 ou 10
donc c'est une dizaine de bureaux et puis une grande salle de réunion.
D'accord.
Monsieur Dripa, vous avez une question ?
Oui, la décision qui a été prise, là, vous allez quand même devoir la faire avaliser par les autres conseils communautaires. Je ne vois pas comment on peut prendre une décision pareille sans que ça soit avalisé par l'ensemble du conseil.
Mais comme toutes les décisions qui sont prises de cet ordre, comme la répartition du conseil d'administration, mais
d'accord,
bien sûr.
Donc pour l'instant, c'est simplement une annonce, mais ce n'est pas avalisé. C'est pas voté.
Mais
non, mais je vous pose la question. C'est
mais
pas
mais,
voté.
Mais aujourd'hui, Monsieur de Ripper, la répartition du conseil d'administration de la SPL n'est pas non plus ni votée ni avalisée, parce qu'on l'a pas encore fait en conseil municipal.
C'est bien ce que je suis en train de vous faire remarquer. En fait, c'est une décision qui a été prise comme ça à trois personnes, mais pour l'instant.
Mais non, elle n'a pas été prise à trois personnes.
Personne l'a avalisée.
Elle n'a pas été prise à trois personnes.
C'est quand même
incroyable. Et c'est là où, au fait, j'ai un vrai problème. C'est quand même incroyable que que l'intérêt de la commune ne soit pas plus important pour vous. Vous êtes en train de nous faire, alors, ce qui est quand même quelque chose dont tout le monde pourrait se féliciter, et je pense que n'importe qui pourrait se dire c'est quand même une très bonne nouvelle pour la commune.
La seule chose
qui vous dérange, monsieur de Ripper, c'est de se dire ça n'est pas été avalisé par les autres. Oui, il y a eu une négociation, parce que quand on négocie dans ce genre de choses, le maire de la commune défend les intérêts de sa commune. C'est ce que j'essaye de faire. Je comprends bien que ce ne soit pas votre intérêt principal, et l'intérêt principal, c'est d'essayer de tirer sur le maire et sur la majorité. Mais moi, j'avance. Mais
ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous demander si ça a été avalisé ou pas. Vous me dites que ça a été une décision qui a été prise à 3 ou 4 personnes.
Oui, mais ces personnes, monsieur de Ripper, c'est le vice-président tourisme, le président du conseil communautaire et le maire de Carnac. Donc je pense qu'ils ont un peu de légitimité pour prendre des décisions.
Non. Toutes les décisions sont prises à la majorité par le conseil communautaire.
Le débat est clos. Encore une fois, j'avance. Je défends ma commune. Je défends les intérêts des Carnacois dans le cadre d'un projet intercommunal qui m'est cher. D'ailleurs, on fait le choix de rentrer dans cette SPL alors qu'on aurait très bien pu faire un choix différent. Et je suis pas... j'ai jamais pensé avoir la science infuse. Je pense aujourd'hui, compte tenu... Des conditions juridiques et des conditions politiques, que c'est le meilleur choix pour la commune. Monsieur de Ripper, très bien, mais c'est comme d'habitude. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est vraiment dommage, parce que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais vous êtes un excellent conseiller municipal, monsieur de Ripper. Vous travaillez énormément, vous rendez des avis qui sont souvent très pertinents en commission urbanisme. Et franchement, je pense que la commune aurait besoin d'un conseiller municipal comme vous dans des dossiers comme ça. J'aurais même pu, s'il y avait une attitude différente, s'il n'y avait pas justement cette volonté permanente, non pas de défendre les intérêts de la commune, mais de mettre à mal la majorité municipale, alors que sur certains dossiers, on devrait être tous ensemble. J'aurais même pu imaginer vous demander de siéger au sein de cette SPL. Mais je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que cette attitude, elle est tellement systématique. Je vais vous dire une chose. Madame Le Golvan siège au conseil d'administration du CCAS et de l'EPIC, de l'Office du tourisme. Elle n'a voté aucun budget depuis le début du mandat. Comment pourrais-je vous demander, alors que vous avez des qualités, monsieur de Ripper, et je suis le premier à les reconnaître. Au dernier conseil municipal, vous nous avez demandé d'être associé à un certain nombre de décisions en termes d'urbanisme. Je serai le premier ravi de vous accorder ça, parce que en urbanisme, je le constate, vous avez des vrais avis et vous travaillez pour l'intérêt général. Mais dans les autres dossiers, je suis désolé, je ne peux pas prendre le risque, dans la mesure où on est dans un contexte politique extrêmement contraint, où vous l'avez vu hier, c'est compliqué de se lever face à d'autres maires qui n'ont pas forcément les avis, d'essayer de retourner une situation ou une décision dont on estime qu'elle n'est pas forcément bonne pour la commune. C'est compliqué. Et il y a des moments, faut être unis, faut être en équipe pour l'intérêt général de la commune. Et c'est ça que je vous reproche. Je ne vous reproche pas ni la qualité de votre travail, ni l'ampleur de votre travail, parce que vraiment, je vous le reconnais, et en toute transparence, et je le dis devant tout le monde, devant tous les Carnacois. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un petit peu plus d'acceptation que les élections, elles sont passées, que les Carnacois ont voté, et qu'on est là à travailler pour l'intérêt des Carnacois. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est dommage parce que je pense que vous pourriez apporter beaucoup plus, monsieur de Ripper, à la commune.
Monsieur le maire, juste un mot. Je pense que ce que veut dire monsieur de Ripper, et en effet, c'est un excellent conseiller municipal, parce que ça fait 10 ans que je siège, et je pense qu'il travaille beaucoup, et il n'est pas contre-productif, comme vous le disiez. Par contre, ce que je voulais ajouter, ce qui peut être choquant, et je crois que c'est ce qu'on peut penser, c'est qu'hier, vous avez eu une réunion, toute la journée, jusqu'à 17h, je crois, c'est ce que Monica dit, elle sortait du conseil. Voilà. Et les autres maires vont apprendre par la presse, ceux qui n'ont pas participé donc à votre négociation, vont apprendre par la presse que c'est à Carnac que va être le siège, et que ça a été décidé même après ce conseil. C'est ça qui peut être un peu troublant.
Madame
quand même.
Voilà. Le siège de l'office intercommunal ne pouvait être que dans 3 stations. Trinité, Carnac, Quiberon. Quiberon va avoir la présidence de la SPL. Il était totalement légitime, et tous les maires le comprendront, qu'il n'est pas choquant, compte tenu du poids financier, du poids de la station, du poids de la marque, que Carnac soit le siège de l'Office du tourisme. Ça vous choque ?
Non, pas
bon.
Du tout.
Alors pourquoi ne pouvons-pas nous simplement nous réjouir à Carnac de cette décision, en disant que, voilà, je n'en tire aucune gloriole, je dis simplement que Tout conseiller municipal de base de cette commune, opposition ou majorité, devrait se réjouir de cette décision, qui n'était pas facile à obtenir, qui a été obtenue, qui a été négociée avec le président. Je l'y pleurais plusieurs fois au téléphone. Et si vous aviez siégé dans ce type de structure et collectivité territoriale, vous savez très bien que bien les grandes décisions se prennent à la fois, évidemment, elles sont actées en conseil communautaire, mais elles se prennent aussi dans les négociations post- et pré-décision administrative. Et c'est comme ça que ça se passe. Soit vous l'acceptez et vous faites en sorte de défendre les intérêts de la commune, soit vous le refusez. Et on se retrouve dans des situations comme celle du nombre de représentants à l'Interco, où Carnac est sous-représenté, parce qu'on aurait dû avoir entre 5 et 7 représentants si on avait mieux négocié.
Alors, je voulais juste repréciser par rapport...
Attendez, il y a madame d'abord, madame Thomas.
Au départ, moi, je n'avais pas compris comme ça. Au départ, il fallait absolument qu'au 1er janvier, l'office de tourisme, enfin, que la SPL soit constituée. On avait négocié au départ, c'est pour ça qu'on a râlé, que le siège de l'office de tourisme, enfin le domicile de la société, serait à la Trinité-sur-Mer. À l'époque, on a dit, Olivier et moi, si on le met à la Trinité-sur-Mer, vous savez ce que c'est, le provisoire, ça dure. Et c'est là qu'on a commencé à se battre. Mais au départ, il était quand même prévu, au 1er janvier, qu'il soit à la Trinité-sur-Mer.
Non, c'est même pas ça, Monique. Au départ,
parce qu'il fallait payer le personnel.
Au départ, non. Alors, d'abord, il ne faut pas confondre le siège administratif et le siège social. Voilà. Donc, je vais être totalement transparent sur le dossier. Au départ, le siège social devait se trouver à Quiberon. Ainsi que la future présidence. Je suis intervenu auprès de Bernard Hillette en lui disant qu'il me semblait, compte tenu du geste qu'avait fait Jean-François Guézet, je vous rappelle que Jean-François Guézet a accepté de renoncer à un siège d'administrateur au sein de la SPL pour le laisser à Pluvigné, commune de l'intérieur. J'ai donc appelé Bernard Hillette en lui disant, écoute Bernard, il me semble que, compte tenu du geste qu'avait fait Jean-François Guézet, et symboliquement, il me paraissait normal de lui faire ce geste et donc d'accorder le siège social, c'est-à-dire l'adresse, c'est une simple boîte aux lettres, à la Trinité-sur-Mer, parce qu'on était à la fois dans le symbole, mais les symboles sont importants quand justement des élus sont capables de renoncer à une partie des intérêts de leur commune pour le bien commun. Donc voilà ce qui s'est passé. Au départ, ça devait être Quiberon, finalement, c'est la Trinité-sur-Mer. Mais c'est le siège social.
Oui, social.
Le siège le plus important, c'est là où vont être les personnels.
Mais voilà.
C'est pour ça que je pensais qu'il était important que ce siège soit à Carnac. Et ça nous permettra en particulier aussi d'avoir deux offices du tourisme, en tout cas un point d'information touristique et un office du tourisme moderne qui vont être donc totalement rénovés, et on s'engage dans cette aventure qui va être compliquée, l'aventure de la SPL. Attention, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, il va y avoir des restructurations, il va y avoir vraiment, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Et ben, je pense que Carnac s'engage dans cette affaire avec tous les arguments, et c'est simplement la chose dont je veux me féliciter. Évidemment, c'est pas facile, on l'a vu hier pour Kergroix, monsieur de Hyper, c'est jamais facile. Il y a des maires qui pensent effectivement que Kergroix, ça n'a aucun intérêt parce que c'est loin de chez eux, et puis qu'ils ne voient pas tellement l'intérêt d'avoir ceci stratégique. Moi, je suis désolé, j'essaye de faire en sorte de défendre les intérêts de la commune. Voilà. Bon, je vous propose de passer...
Juste une remarque, pardon. Vous, à chaque fois, vous dites l'ancienne municipalité, mais elle n'a pas bien négocié le nombre de représentants à ACTA. C'était la loi qui a de choisir.
Non.
Enfin, à l'époque,
non.
On avait essayé avec
non.
Monsieur Josse,
non, non, non,
Madame
non,
Mich. Enfin, moi, j'ai tous les mails échangés. C'était la loi qui nous l'imposait.
La loi ne dit pas que on peut répartir le nombre des représentants à la population INSEE. Elle aurait très bien pu choisir la population des EF. Ça existe dans d'autres intercommunalités. Donc, effectivement, je le redis, mais je l'ai dit à de nombreuses reprises. Est-il normal que la commune qui est le plus gros contributeur fiscal à l'intercommunalité n'ait que deux représentants? Je l'ai dit à l'époque, je le redis aujourd'hui. C'est pas, je rouvre pas la polémique. De toute façon, c'est fait, on ne pourra pas y revenir. Mais non, c'est pas la loi.
Monsieur Josse avait défendu le dossier parce que j'ai gardé tous les mails quand même. C'était dit, c'était écrit d'ailleurs, que c'était la loi qui nous imposait de choisir la population INSEE et non DGF.
C'est bien ce que
et j'ai gardé les mails. Madame Michard est là, j'aimerais entendre la réponse.
C'est bien ce que je dis, vous avez mal négocié.
Pardon, ceci dit, il faut dire quand même que la commune, le Kergroix avait été proposé à la commune de Carnac il y a un certain temps. et que la commune de Carnac avait dit non. Hein.
Tout à fait.
Et je voudrais savoir quand est-ce que ça a été proposé à la commune.
Tout à fait, tout à fait.
Hein, parce que la commune avait dit non.
Mais
aurait pu l'avoir pour pas cher à l'époque. Hein.
Madame Thomas, c'est un peu plus compliqué que ça, s'il vous plaît.
Enfin, on l'avait proposé. Quand même.
Madame Thomas, c'est un peu plus compliqué que ça, s'il vous plaît. Quand on achète un bâtiment, il faut avoir un projet, il faut être capable de le porter devant le conseil municipal. Quand on nous l'a proposé, effectivement, on n'avait pas de projet. Ah, et en plus, on était à une époque où voilà, il y avait beaucoup de flou sur l'organisation juridique. Donc attention à ce genre de...
Oui, mais je dis quand même, il a été proposé à la commune une fois.
Bien sûr qu'il a été proposé. Il a été proposé à tout le monde depuis 15 ans, ce bâtiment. Donc encore faut-il avoir un vrai projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la préemption. À l'époque, je pense que ça a été proposé à toutes les municipalités depuis celle de Michel Graal. Sauf que quand aucune municipalité n'avait un projet tangible sur le site. Et par ailleurs, encore une fois, sa vocation la plus pertinente, c'est quand même une vocation intercommunale. Voilà. Et je reste aujourd'hui convaincu que ça. Mais le dossier n'est pas clos. Et encore une fois, je suis prêt à l'étudier d'un point de vue communal. Attendons de voir comment ce dossier va évoluer. Bon, je vous propose de passer à... Monsieur de Ripper, vous avez une dernière remarque ?
Je peux quand même donner une précision justement sur l'achat éventuel par la commune. C'est que vous avez parlé du prix d'achat qui est en effet qui serait aux alentours de 450 000 euros. Mais vous n'avez pas parlé non plus de la rénovation du bâtiment qui a été évoquée hier et qui s'élève à 2,7 millions.
J'ai découvert avec vous cette estimation. Tout dépend de ce qu'on veut faire du bâtiment. Et puis encore une fois, le prix de rénovation doit être évalué à l'aune de ce qu'on fait du bâtiment. Si vous tirez des revenus du bâtiment, par exemple, un investissement de cette hauteur peut être parfaitement intéressant, ou il peut être aussi complètement démesuré. Donc encore une fois, je ne souhaite pas rester dans ces chiffres. Je pense aussi je pense qu'il faut regarder le jour où on aura la volonté ou pas d'acquérir ce bâtiment, là, il faudra faire des études, et je pense que c'est aussi peut-être une réflexion qu'il faut entamer. Si d'aventure, on a la volonté d'acquérir ce bâtiment, il faudrait déjà qu'on réfléchisse, parce qu'on ne va pas proposer aux Carmacois d'investir 450 000 euros dans un bâtiment sans avoir un véritable projet pour le bâtiment. Donc, je pense que l'ensemble du conseil municipal et les commissions, et si vous avez des idées, moi, je suis preneur, on pourrait peut-être d'ores et déjà réfléchir à ce qu'on pourrait faire de ce bâtiment. Et en fonction de ce qu'on en fera, de sa destination, je dirais tout change, parce que mettre 2 millions d'euros si ça vous rapporte 300 000 par an, c'est pas la même chose que de mettre 2 millions et puis que c'est simplement une infrastructure, je dirais, qui coûte en coût de fonctionnement. Donc je pense qu'effectivement, je ne me bloquerai pas totalement sur ce chiffre, même si je pense que ce bâtiment coûtera sûrement cher. Mais est-ce que, par exemple, la meilleure solution, ce n'est pas de le foutre par terre et de faire autre chose? Parce qu'avec 2,8 millions, vous pouvez faire une infrastructure qui aurait sûrement une belle envergure. Donc là aussi, je pense que c'est un peu trop tôt pour rentrer dans ce genre de digression.
Pour le mettre par terre, vous aurez du mal, monsieur le maire, parce qu'au PLU, il est classé NHI. Et étant classé NHI, vous ne pouvez pas le détruire.
Non, mais quand je dis le mettre par terre, je ne disais pas de le détruire totalement, je disais de le restructurer de manière totalement profonde et puis de garder les murs, et par exemple, pour faire quelque chose de très différent.
Pouvoir y faire quelque chose de très différent, il faudra aussi peut-être réviser le PLU.
Tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'il est un peu tôt pour rentrer dans ce genre de considération. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se dise au sein du conseil municipal, est-ce qu'on estime que ce site est suffisamment stratégique pour que la commune s'y intéresse ? Voilà. À ce stade, je pense que c'est la seule chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Le reste, c'est un petit peu peser des œufs de mouche dans l'étoile d'araignée, parce que je ne sais pas aujourd'hui très bien ce qu'on pourrait faire de ce site, combien ça coûterait, combien ça rapporterait. Mais si on doit un jour se pencher sur le dossier, ben on le fera sérieusement. Madame Baga.
Intervenir, en effet, dire que M. de Repère travaille énormément et que c'est dommage que ses compétences et ses savoir-faire ne soient pas suffisamment utilisés.
C'est certain. C'est exactement ce que j'ai dit, Madame.
Oui, ben en effet, j'approuve et je surenchéris. Mais une chose plus concrète, mais les travaux qui vont être faits à l'Office de la plage, c'est la municipalité qui va les financer?
Mais Madame Bagarre, vous devriez avoir vous-même la réponse à cette question. Le 1er janvier, qu'est-ce qui se passe?
Oui, mais donc on vote quelque chose aujourd'hui. Est-ce que ce sera...
Ah non, enfin,
non, on ne vote pas.
On vote rien aujourd'hui.
On vote rien aujourd'hui, mais c'est déjà en cours. Donc c'est comme si c'était déjà dépensé.
Ah bah bien sûr.
Est-ce que la communauté remboursera
La communauté de communes ne remboursera pas pour les études préalables. En revanche, à partir du 1er janvier, il va falloir trouver un mécanisme parce que à partir du 1er janvier, c'est la communauté de communes qui est compétente. C'est donc elle qui d'une façon ou d'une autre, paiera les travaux. Encore une fois, Madame Bagarre, il faut regarder ce dossier dans un sens stratégique. C'est-à-dire que là, on s'engage pour 20, 30, 40, 50, 60 ans. Donc vous imaginez bien que quelques milliers d'euros de préétudes pour ce genre de choses, alors qu'on engage la commune pour plusieurs décennies, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas très important. C'est pas, je ne parle pas de ça, Madame Bagarre. Je parle du fait qu'avec un peu de chance, l'office intercommunal restera à Carnac pendant une grande durée. Et de toute façon, ce n'est pas nous qui paierons l'éventuelle rénovation dans 60 ans. Bon, allez, on passe à l'ordre du jour parce que je pense qu'on a, et c'était intéressant d'ailleurs, on a eu des discussions intéressantes sur le sujet. Modification donc des statuts de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, le premier rapport. Je passerai rapidement, vous savez que les conséquences de la loi NOTRe font que la compétence relative au développement économique doit être basculée à ACTA. Et dans ce cadre, la compétence promotion tourisme, et je vous demande bien de retenir ce terme, promotion tourisme, a été inscrite dans les compétences obligatoires de la communauté de communes. Et donc nous devons voter la modification de ces statuts et émettre un avis favorable à leur modification conformément à la délibération donc prise par le Conseil communautaire le 30 septembre 2016 et également d'approuver en conséquence les statuts modifiés annexés à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette modification, Monsieur de Ripin?
Il n'y a pas une seule modification des statuts, il y en a deux. Et sur la deuxième, je voulais avoir votre quelques explications, puisqu'on modifie les statuts en disant création, c'est dans les compétences optionnelles, création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service. Est-ce que vous pouvez m'indiquer ce que ça veut dire?
Alors, je n'en ai aucune idée, pour être parfaitement transparent.
C'est-à-dire qu'on est en train de voter des statuts et on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Non, mais que je ne suis pas omniscient non plus, donc il m'arrive parfois de ne pas savoir exactement, mais je pense que ça a été évoqué en Conseil communautaire.
Et est-ce que quelqu'un peut nous éclairer? Vous n'avez pas compris la question?
Non, j'ai pas écouté plutôt.
Ah, attendez.
J'ai pas écouté, moi.
Je la repose. Dans la modification des statuts, il est prévu en effet de modifier les statuts concernant la faculté de la compétence obligatoire en ce qui concerne le tourisme, mais il y a une compétence qui est facultative, non optionnelle, qui est modifiée aussi, c'est la création et gestion de maisons de service. Je ne sais pas ce que c'est que la création et la gestion de maisons de service. Donc je
Il s'agit de la création de maisons de services créées notamment dans le cadre des services à la personne. C'est assez générique, mais ça peut être des services liés sociaux, notamment liés à l'assistance à domicile ou à ce genre de choses. Il me semble que de mémoire, c'était l'objet. Enfin, il n'y a pas eu de débat vraiment très long sur le sujet. D'autres questions? On peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote pour? Le reste, avec monsieur Lerouzic aussi? Monsieur Lerouzic s'abstient également?
Non, pardon, les statuts, c'est oui.
Ah, d'accord, ok. Bon, donc unanimité pour les statuts. Je vous remercie. On passe au rapport suivant, qui est donc la création de la société public local, SPL, Auray-Carnac-Quiberon, tourisme. Je pense qu'on en a débattu suffisamment longuement. On en a expliqué les modalités de fonctionnement, la structure du conseil d'administration et son objet. Je suis prêt, évidemment, si vous avez des questions à y répondre. Je pense que c'est assez clair. Hein. Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix que nous avons fait et on a eu des vrais débats au sein de la majorité municipale. Hein. Je pense que Madame Moreau n'était pas forcément favorable à cette évolution et moi je respecte. Elle aurait peut-être préféré d'ailleurs qu'on reste indépendant. Moi je pense que c'est le sens de l'histoire, qu'il faut, si on veut être plus fort, parce que les modalités de promotion du tourisme changent, Internet, la numérisation, la puissance de frappe également en marketing et en communication qu'il faut avoir pour aujourd'hui exister sur ce marché est telle que eh bien, on sera plus fort à plusieurs. Mais encore une fois, seul l'avenir nous dira si cette décision était la bonne ou elle était mauvaise. Mais moi, j'ai envie d'y croire et je crois que c'est un beau projet à mener pour l'intercommunalité. Monsieur de Ripper ?
On n'aura quand même plus jamais la main sur la politique touristique de la commune, alors que la loi nous permettait de continuer avec un office de tourisme indépendant.
Tout à fait.
L'article 68 de la loi NOTRe. On va avoir maintenant l'article 18 de la loi Montagne, qui va plutôt dans ce sens-là. Moi, je ne comprends pas. Et en plus, dans les schémas qui ont été présentés, à la fois par KPMG, mais aussi par le bureau d'études précédent, Topix ou quelque chose comme ça, les deux schémas prévoyaient un office de tourisme pour les stations classées qui reste indépendant. C'était les schémas privilégiés jusqu'au mois de septembre. Pourquoi est-ce que... C'est quand même la politique que vous avez défendue depuis le début. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, au mois de septembre, on fait volte-face et pourquoi tout d'un coup on accepte de rentrer dans une structure qui, pour moi, me paraît pour le moins gouvernable?
Alors, monsieur de Ripper, on va revenir au débat de tout à l'heure qui consistait à dire quelle est la ligne directrice de votre position. Juste une petite remarque. Quand nous avons refusé de rentrer dans la mutualisation de l'urbanisme, que n'avons-nous pas entendu de votre part en disant « mais il faut mutualiser, c'est quand même dommage de faire des économies ». Monsieur de Ripper, vous répondrez après. C'est moi qui donne la parole dans le conseil municipal, donc vous éteignez votre micro, sinon je peux l'éteindre, et vous répondez une fois que j'ai parlé. Ok ? Que n'avons-nous pas entendu sur le sujet en disant « oui, c'est dommage, faut mutualiser, vous l'avez écrit à longueur de communiqués et de tracts que vous distribuez ». Par ailleurs, Madame Le Golvan, qui siège à l'EPIC, n'a pas arrêté de défendre cette position de la mutualisation, en nous demandant « mais voilà, c'est dommage de ne pas mutualiser ». On a aussi entendu à chaque fois en disant « mais pourquoi vous faites des travaux à l'Office du tourisme alors que ça va basculer à ACTA ?» Mais quelle est la cohérence de votre position, monsieur de Ripper? Quelle est la cohérence? Vous nous dites pendant des mois et des mois « il faut mutualiser, il faut aller à ACTA dans tous les domaines » et aujourd'hui on le fait lors du dernier conseil municipal. Et je termine, je vous avais dit que nous avions l'impression qu'il suffisait que la municipalité décide blanc pour que vous nous vendiez noir, mais je pense qu'on est exactement dans ce schéma. C'est-à-dire que votre seule cohérence politique, c'est simplement de prendre le contre-pied des décisions de la municipalité. Voilà. Bon, donc, et c'est un exemple magnifique, encore une fois.
Puis-je répondre? Donc la réponse, elle est là, c'est-à-dire dans l'étude sur laquelle repose la délibération qu'on va voter. Elle est là, c'est marqué en toutes lettres. On a un office de tourisme indépendant avec la mutualisation des moyens. Donc je suis totalement cohérent, c'est-à-dire que je demande à avoir un office de tourisme indépendant dans ce cadre-là, avec une mutualisation des moyens, ce qui était parfaitement prévu dans les deux études qui ont été faites.
En gardant la taxe de séjour qui représente à peu près quasiment 45% de la taxe de séjour prélevée sur le territoire, on va réussir à mutualiser quelque chose au niveau du territoire. Mais il faut être sérieux, monsieur Deripin. Vous savez très bien que ça n'aurait pas fonctionné. On aurait eu simplement un État dans l'État qui aurait été l'Office du tourisme de Carnac. Et moi, j'ai envie de porter un projet communautaire parce que je pense qu'on est plus puissant dans ce domaine à plusieurs. Donc, encore une fois, vous dites exactement le contraire de ce que vous avez dit pendant des mois, simplement pour prendre le contre-pied de la politique municipale. Et c'est comme ça dans tous les domaines, parce que l'urbanisme, il suffit de reprendre, je pense, vos commentaires lors des conseils municipaux, c'était exactement le contraire. Vous êtes capable de faire, comme dirait monsieur Le Rouzic, un virage à 360 degrés sur ce sujet, et je m'en étonne à chaque fois. Et donc, encore une fois, c'est aussi pour ça, monsieur de Ripper, que malgré la qualité de votre travail, c'est très difficile de vous intégrer à la défense des intérêts de la commune dans d'autres structures, alors que j'aimerais le faire, parce que quelque part... Mais non, ce n'est pas un procès, c'est une réalité.
Vous ne répondez jamais sur le fond, vous ne répondez que sur la forme.
Mais pas du tout.
Et en ce qui concerne les virages à 360 degrés, comme vous dites, en effet, vous pouvez me donner des leçons.
Liez ça pour Monsieur Bruno du rétro-pédalage, Monsieur Lepic.
Pas du tout. Pas du tout.
Enfin, comme je l'ai dit déjà à la commission et au CODIR hier, Madame Le Golvan, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte politique de l'époque. Et faut pas aujourd'hui dire que les choses sont faciles alors que vous avez suivi, parce que je pense qu'il y a eu une information très régulière sur tout ce qui se passait au niveau de la communauté de communes pour le transfert de la compétence, et les choses n'ont pas été aussi évidentes avec un schéma prédéfini, accepté par tous, qu'allait être celui qui allait être choisi. Donc je pense qu'on en a déjà parlé hier. les décisions elles ont été prises dans un environnement et c'était des décisions qui se justifient. Je pense qu'il faut, vous avez toujours dit qu'il faut parier sur la mutualisation. Aujourd'hui, je ne comprends pas trop là, votre...
On en a parlé hier et c'est vrai que vous avez défendu le dossier de l'indépendance jusqu'au bout. Donc là-dessus, on en a discuté et je vous félicitais. Par contre, quand vous dites qu'on a débattu, on a l'exemple hier pour l'intercommunalité où M. Lepic, bon, à 3 ou 4, prend une décision. Pour ce dossier de choix politique, c'est un choix politique, mais quelque part, vous dites on a débattu avec la majorité, c'est ce que vous avez dit, M. Lepic, tout à l'heure. Il n'y a jamais eu de débat en conseil municipal pour nous demander quel était le mieux, stratégiquement, enfin, en exposant votre stratégie. Vous nous avez imposé le 7 octobre au CODIR, vous êtes venu d'ailleurs, c'était un des rares CODIR où vous étiez présent. Et pour nous, pas vous, Mme Moreau, M. Lepic qui était là, présent. Plaisantez, je suis toujours là. CCA, c'est pareil, ça fait deux fois qu'il y est. Avant, depuis trois ans, on ne l'avait pas vu. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, en débat en conseil municipal, on n'a jamais eu de débat sur le choix de rester indépendant ou d'intégrer l'OTI.
On a parlé de ces sujets tout au long de discussions avec ACTA. Madame Le Golvan, jamais vous n'avez ouvert le débat sur le sujet alors que la parole vous était donnée. Vous ne l'avez jamais ouvert, ce débat.
Je crois qu'on a assez fait de politique comme ça. Monsieur Bonduel, vous vouliez faire une remarque? J'ai vu que vous aviez allumé votre micro tout à l'heure. Non? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a donc des votes contre la création de cette société publique locale SPL Aurec-Arnac-Quiberon Tourisme? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, donc plus Monsieur Lerouzic. Et des votes pour. Je vous remercie. On passe maintenant à la désignation des administrateurs de la commune au sein de la SPL d'Aurec-Arnac-Quiberon Tourisme. La majorité municipale propose d'approuver la désignation en son sein de deux représentants au conseil d'administration de la SPL, à savoir Mme Armelle Moreau et M. Pascal Lejean, ainsi que d'approuver la désignation en son sein d'un représentant aux assemblées générales de la SPL, à savoir M. Pascal Lejean. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il n'y a pas d'autres candidats? Je vous remercie. On va donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes pour? Je vous remercie. Félicitations à Madame Moreau, à Monsieur Lejean et à Pascal Lejean. Avant de terminer sur ce... Madame Lejean, pardon. Monsieur Lejean. C'est vrai que t'es pas efféminé, pourtant. Non, je voudrais simplement dire un petit mot à l'occasion de la création de cette SPL. Comment ? S'il vous plaît. Je voudrais simplement dire un petit mot à l'égard de Madame Moreau. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je voudrais remercier Madame Moreau pour le travail absolument exceptionnel et l'engagement qu'elle a accompli depuis trois ans au sein de l'Office du Tourisme avec Nicolas Maisonneuve, notre directeur. Je crois qu'Armel, on connaît tous le caractère passionné d'Armel. Et encore une fois, de manière tout à fait transparente, je peux vous dire que on a eu des débats animés avec Armel sur cette question. Encore une fois, je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne sais pas si cette décision, c'est la bonne. On le saura dans quelques années. Mais ma conviction, c'est toujours celle de la défense des intérêts de Carnac. Je pense que nous aurions commis une erreur potentiellement monumentale en n'entrant pas aujourd'hui aux conditions dans lesquelles nous rentrons dans cette SPL. Mais en tout cas... à ce stade, et je trouve merveilleux qu'Armel ait accepté de siéger à la SPL. Le travail qui a été fait depuis trois ans, je ne l'oublie pas. Je crois que jamais le CODIR de l'Office du Tourisme n'a fonctionné de manière aussi fluide et aussi unanime avec les professionnels. Et ça, c'est le travail d'Armel. Et je trouve que, effectivement, même si je comprends que ça puisse être difficile de voir son bébé alors qu'on le voit grandir et devenir un bel adolescent, eh bien être transféré dans une autre forme de gouvernance, une autre structure. Mais je pense que là aussi, Armel, tu auras toutes tes compétences et ta passion, et certains l'attendent avec angoisse au sein du conseil d'administration de la SPL. Mais on a besoin de gens engagés, de gens qui ont des convictions. Et je pense que tu nous as prouvé depuis trois ans que ces convictions, tu les portais pour le territoire, pour Carnac. Et je te remercie
malgré tes réserves. Et encore une fois, j'ai toujours respecté profondément ces réserves. Je te remercie solennellement au nom du Conseil d'avoir accepté de siéger dans cette SPL parce que je pense que tu as encore beaucoup à apporter pour le territoire.
Merci, Monsieur le maire. Et je pense que le bébé, comme vous dites, il va grandir avec l'ensemble des autres acteurs du tourisme du territoire. Donc, je garderai cet engagement pour un territoire dont je suis très amoureuse.
Ah, pardon, Monsieur Mondel.
Oui, c'est vrai qu'on est tous tristes de voir partir Armel. Donc, si Armel s'en va, et donc il n'y a plus d'ajout en tourisme.
Alors, comme vous... Je vais en profiter pour faire une remarque. J'ai été profondément choqué. Je ne sais pas quelle personne qui tient la plume de votre acte, mais il a un humour particulièrement blessant. On peut dire ce qu'on veut sur la politique municipale, Monsieur Bonduel. J'ai aucun problème. On peut même critiquer le maire. Ça m'est arrivé dans des meetings pendant la campagne électorale. J'ai aucun souci avec ça. Mais quand on mélange l'activité professionnelle d'une conseillère municipale, a fortiori d'une adjointe, avec des jeux de mots pas drôles et douteux, je trouve ça profondément blessant et je dirais même dégueulasse. Jamais, je ne ferai une remarque je mélangerai la vie professionnelle d'un conseiller municipal, fût-il de l'opposition, sur ses convictions et mélanger avec sa vie professionnelle. Donc les allusions au manège sont complètement déplacées. Je ne sais pas qui tient la plume, mais je peux vous dire que je n'accepte pas et je n'accepterai pas ce genre de communication. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la politique municipale, vous avez le droit de la critiquer, vous avez le droit de la trouver déplorable, non pertinente pour la commune, mais j'aimerais qu'on respecte l'intégrité des conseillers municipaux. Donc à l'avenir, vous pouvez évidemment continuer à distribuer votre acte, mais ne pas faire d'attaque personnelle parce que ça me choque profondément.
Alors, c'est moi qui suis la plume.
Ça ne m'étonne pas, vu effectivement l'humour.
Vous m'avez reconnu.
Il y a du Chateaubriand chez vous, Olivier.
Et très sincèrement, j'ai trouvé ce petit mot assez sympa. Le titre « Tourner manège », c'est un titre qui a remplacé en fait un premier titre qui était « Sauvons le soldat Armel ».
Il était comment ? Tout aussi mauvais que le deuxième, hein.
Et je trouvais ça assez sympa parce que moi personnellement, j'ai toujours trouvé que vous aviez fait un travail sur le plan touristique exemplaire au niveau de la commune, même si on n'a pas toujours été d'accord sur les financements et sur le montant des financements. Et je trouvais aussi, et j'étais un petit peu surpris, d'ailleurs ça a été rappelé par Monsieur le maire pendant que vous étiez parti là pendant 2 minutes, les dispositions qui ont été prises, enfin la position qui est prise par la mairie de Carnac pour adhérer donc à l'office du tourisme communautaire ne correspondait pas à vos intentions. Donc voilà, c'était comme ça, c'était donc
c'était
un petit trait d'humour et je vois pas ce qu'il y a.
Monsieur Bonduel, vous êtes suffisamment intelligent et âgé pour comprendre que le but n'est pas, le propos n'est pas de savoir si c'était drôle ou pas. À partir du moment où vous blessez les gens, ça ne se fait pas, c'est tout. Et c'était blessant, je peux vous le dire.
Alors, si
le sujet, c'est pas moi. De toute façon, le sujet, c'est la compétence tourisme. C'est votre question. Et la compétence tourisme, elle n'est pas transférée au comité de communes. C'est la compétence promotion du tourisme. Je vous l'ai dit en commission, je le dis en conseil municipal. Donc, il n'y a pas de débat sur le devenir d'Armel Moreau au sein du conseil municipal dans des fonctions liées au tourisme.
Ben ça, on verra ça à l'avenir. Parce que moi, je pense qu'il y aura... C'est vraiment le sujet principal, ça. Je crois que, à mon avis, la stratégie et la politique du tourisme à Carnac va être modifiée en profondeur. Enfin, je pense. Enfin, on verra.
Eh ben, j'espère qu'à l'avenir, votre humour sera aussi modifié en profondeur.
Et ça, c'est public. Si je vous ai blessé, j'en suis profondément désolé. C'était pas du tout notre intention. Voilà. C'était même l'effet inverse.
Et c'était pas la première
fois.
Pardon ? Et c'était pas la première fois.
Non, mais attendez...
Non, c'était pas la première fois.
Je pense qu'ici, vous tenez aussi des propos, monsieur le maire, qui sont, on entend, assez blessants.
Pas du tout.
Si.
Non, pas du tout.
Alors, vous devriez faire attention.
Pas du tout. Moi, je ne porte mes propos que sur la politique municipale, pas sur la profession des conseillers municipaux, ni sur leur vie personnelle. Et je vous demande de respecter ça, parce que c'est très important. Merci. L'exemple du tract que vous avez écrit.
c'est très intéressant comme remarque. Ok, monsieur Lejean, décision modificative pour l'acquisition des parts sociales dans la SPL.
Oui, donc suite au débat depuis ce matin, donc vous avez suivi que nous devons acquérir des parts sociales dans la SPL. Donc je vous rappelle qu'il y a plusieurs actionnaires, dont trois principaux, qui est Actin, après la commune de Quiberon et effectivement la commune de Carnac. Donc nous devons acquérir, pour 52 800 euros d'actions, qui doit représenter 660 actions de mémoire. Et donc, ces dépenses d'investissement n'ayant pas été inscrites au budget, puisque nous n'avions pas effectivement l'information lorsque nous avons fait le budget, donc il y a une décision modificative du budget à prendre pour 52 800 au chapitre 26 et en recettes d'investissement pour 52 800 au chapitre 10. Avez-vous des questions ? Si vous avez suivi. Si vous préférez, en faisant court, les 52 800 qui n'étaient pas inscrits au budget de 2016 pour rentrer au capital de SPL sont pris dans le FCTVA puisque nous avons aujourd'hui une recette de FCTVA supérieure à ce que nous avions prévu. Donc ça ne pose aucun problème sur le budget. Ça ne change en rien le budget.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce bordereau? Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. On passe à un autre dossier, donc également important, celui du casino de Carnac. Monsieur Lejean, toujours.
Donc, comme vous savez, depuis plusieurs années, le casino de Carnac, qui était géré par le groupe Barrière depuis son... pas son ouverture, puisque l'historique de notre casino est un peu complexe. Je ne vais pas le refaire parce que je risque de prendre du temps. Mais je pourrais mettre à votre disposition un petit document. Et de toute façon, il est prévu qu'on vous fasse une petite présentation avec les nouveaux propriétaires, comme nous vous l'avions fait en 2014 tous ensemble. Donc juste un historique, 98, 2000, 2002, l'ouverture du casino de Carnac, groupe Accor qui se marie avec le groupe Barrière, pour devenir tout simplement le groupe Barrière, qui a cédé son casino officiellement au mois de septembre 2016 à la SFBC, Société franco-belge de casino, dont vous avez deux actionnaires, la Société française de casino et la Société belge du groupe Ardent sous la marque Circus. Les Belges étant majoritaires dans la société franco-belge de casino et le Français étant minoritaire derrière. Donc ils ont souhaité renégocier effectivement la problématique du compte 471, donc ce qu'on appelle le compte PAE compte 471. Je vous rappelle, jusqu'en 2014, c'est-à-dire en fin octobre 2014, il était abondé par rapport au chiffre d'affaires de jeu dans un casino, une somme qui était abondée pour améliorer la station balnéaire et les abords du casino. Ce compte, depuis la création du casino de Carnac, n'a jamais été ouvert ou utilisé, si vous préférez. Donc, il restait une somme de 621 000 euros, 512,56 pour être précis. Et donc, cette somme devait être liquidée pour la fin de l'année 2016, c'est-à-dire d'abord à fin octobre. Pourquoi fin octobre? Puisque je vous rappelle que l'année de fonctionnement d'un casino ou des jeux par l'État français va du 1er novembre au 31 octobre. Donc dérogation de l'État pour aller jusqu'à fin de l'année pour liquider ces sommes-là. Et donc il a été convenu avec les nouveaux propriétaires de répartir la somme de 621 512,56 euros à 50-50 pour la commune, 50 pour le casino, en ayant des projets d'aménagement pour la commune et des projets d'aménagement extérieur pour le casino dont ça fait paraître à l'écran. Ça, c'est pour la première chose.
Okay, est-ce qu'il y a des questions sur ce...
Monsieur Bonduel. Ce serait peut-être bien d'aller jusqu'au bout, je pense.
D'accord. Donc, ça a été le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est que le groupe est revenu vers nous en nous demandant de pouvoir renégocier les taux. Je vous rappelle que la règle de calcul des taux de jeu est un peu complexe, puisque nous sommes dans un État qui ne sait pas faire des choses simples. Donc, pour faire clair, vous avez une chose à retenir, vous avez un PBJ qui est un produit brut de jeu, et un PNJ qui est un produit net de jeu. Et après, vous avez un taux communal. On va retenir ces trois choses-là. Si on va plus loin, je pense que tout le monde va s'y perdre. Donc aujourd'hui, lorsque la DSP a été signée en 2002, enfin en 2000, et que l'activité a commencé en 2002 du casino de Carnac, il était prévu un taux communal de 15%, qui est calculé sur le PNJ, mais qu'on se réfère toujours au PBJ, parce que le PBJ, c'est grosso modo le chiffre d'affaires qui est plus facile à suivre. Parce que le PNJ peut varier en fonction des montants, puisque les taux d'abattement ne sont pas les mêmes par rapport au type de jeu et par rapport au montant. Je ne rentre pas dans le détail, autrement je peux vous amener un tableau et faire une interrogation écrite pour samedi prochain, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réussite. Donc, ils nous ont demandé de renégocier les taux. Nous avons commencé à envisager une négociation à partir du mois d'août avec Monsieur le maire. Nous avons eu plusieurs réunions qui ont été un petit peu houleuses. Et effectivement, dans la DSP, on a un article qui nous permet, qui leur permet et qui nous permet de renégocier effectivement le taux de jeu, puisque le casino de Carnac s'est retrouvé dans un environnement concurrentiel qui avait complètement évolué depuis, entre guillemets, ces 6 à 8 dernières années. Alors au début, sur des problèmes de carte d'identité, sur des problèmes de tabac, après sur des ouvertures de casinos. Pour mémoire, je vous rappelle ce qui est arrivé au casino de la Trinité-sur-Mer. Donc effectivement, nous avions besoin de réactualiser l'environnement économique qu'avait notre casino si on voulait pérenniser cette activité-là et cet outil de production. Donc nous avons commencé à engager des négociations. Il y avait eu une première négociation qui avait été engagée dès 2014, donc qui avait déjà été engagée avec l'ancienne municipalité, dans laquelle nous avons continué, que j'avais travaillé d'ailleurs avec Daniel Joss dessus, qui avait failli aboutir à une renégociation, et au dernier moment, si vous voulez, elle n'a pas été aboutie, c'était passé en commission avec Monsieur Olivier Bonduel d'ailleurs, avec Madame Chris Lamandet à l'époque, quand nous avions trouvé un accord, et pour une problématique juridique, si vous voulez, qui n'avait pas été très claire, nous avions arrêté nos négociations. Et effectivement, le groupe Barrien, c'est là qu'il s'est dit, de toute façon, nous, on a envisagé de le vendre. Bon, on s'est dit, puisque vous avez envisagé de céder le casino, il sera plus simple d'envisager une négociation avec des nouveaux propriétaires qu'avec celui qui vend. Donc, ce qui est arrivé. Et donc, aujourd'hui, on propose, donc je vous rappelle l'environnement économique du Morbihan. Le Morbihan, il y avait historiquement 3-4 casinos, il y en a eu 5. Il y en a eu, on est redescendu, on est remonté, puisque la Trinité-sur-Mer a fermé et celui de Vannes a ouvert. Ça a été l'événement de l'année dernière. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes entourés entre Quiberon, l'Armor Plage, Vannes et l'autre casino, c'est Arzon. Aujourd'hui, l'Armor Plage, Vannes, Quiberon appartient à la Société Bretonne de Casino. Celui de Carnac, donc, à la Société Franco-Belge de Casino, et celui d'Arzon au groupe Joa. Celui d'Arzon arrive dans une négociation en début 2017, une DSP qui arrive à terme, donc qui sera renégociée, avec des questions pour ce casino-là, puisque c'est le plus petit aujourd'hui du département. De monter en puissance avec celui de l'Armor Plage qui s'est retrouvé dans ses locaux définitifs à partir du mois de juin 2016, celui de Vannes qui a ouvert et qui sera dans ses locaux définitifs pour mi-2017. Je pense que effectivement, à partir de là, on devrait avoir une situation sur notre département qui devrait se calmer, puisque nous sommes le premier département français en termes de progression d'offres de jeux et de dépenses de jeux, puisque nous dépassons les 25%. Le seul problème, c'est que le gâteau qui était à partager à 3-4, aujourd'hui on est arrivé à 5 avec des poids lourds. Donc, lors de l'arrivée de ces nouveaux opérateurs sur le marché de jeux dans notre département, il y a eu des négociations qui ont été faites au niveau de la taxe de jeu, et plutôt des négociations très en dessous du taux de 15%, puisqu'on est sur des bases plutôt de 10, voire en dessous, voire 8. Et donc, il s'est avéré qu'effectivement, l'environnement concurrentiel du casino de Carnac se retrouvait désavantagé. Donc, nous avons mis autour de la table, nous avons eu plusieurs propositions, nous avons fait plusieurs propositions. Et au bout d'un certain temps, en ayant eu quand même quelques réunions un petit peu houleuses, dont une à Paris, où qui a failli mal se terminer, pour être clair, Nous sommes tombés sur un accord qui l'ensemble des deux actionnaires n'étaient pas tout à fait d'accord, mais on avait le principal qui était d'accord avec nous, l'autre voulait plus, où nous sommes arrêtés sur un taux d'abord progressif, c'est-à-dire qu'avant nous avions un taux linéaire, on prenait le premier euro et on allait jusqu'au dernier euro et on avait un mode de calcul à 15%. Aujourd'hui, nous allons démarrer ce qu'on appelle dans des tranches, d'accord, qui auront effectivement un taux. La tranche supérieure ne sera que la partie de la tranche supérieure qui augmentera le taux. On est bien d'accord? Donc, pour prendre l'exemple de 1 à 3 millions, ce sera 10%. Alors, on est sur le PBJ, hein, le mode de calcul n'est pas exact, mais c'est juste pour les repères, sur une base de 10%. Et effectivement, de 3 millions à 5 millions, c'est-à-dire les 2 millions supplémentaires, eux, seront sur une base de 2%, et au-dessus de 5 millions, sur une base de 15%. Il faut savoir une chose quand même, dans ce que récupère une commune ou une collectivité sur la taxe de jeu, il y a 2/3 qui viennent du taux qui est négocié par la commune, 1/3 qui viennent de l'État, puisque ce que prélève l'État redonne 10% du prélèvement de l'État et redonné aux communes. D'accord? Donc pour faire juste simple, hein, rapide, c'est-à-dire 2/3 sur 10 euros que perçoit la commune, vous avez 6,66 qui viennent effectivement directement du taux qui a été négocié et 3,33 qui viennent de ce que prend l'État. Et, plus, et si vous voulez compliquer, là-dessus, on a une petite quote-part. Non? Non? Bon. Donc aujourd'hui, si on reprend ces taux et qu'on veut comparer par rapport aux 15% que nous avions, si demain, il faut savoir que le casino de Carnac va faire 5,5 millions de PBJ cette année, en baisse importante, même s'il y a eu un événement exceptionnel cette année, puisqu'il y a eu une grosse cagnotte qui a été, et qu'effectivement, il n'y avait qu'une partie qui était provisionnée, ce qui est normal, je vous rassure. On espère revenir rapidement avec une dynamique, avec les nouveaux propriétaires, à un PBJ aux alentours de 7 millions. Si on prend un PBJ de 5 millions et qu'on applique la grille que vous avez à l'écran, ça ferait une moyenne de 10,80. Si on applique, si on prend un PBJ à 6 millions, ça ferait une moyenne de 11,50. Et si on a un PBJ à 7 millions, ça ferait une moyenne de 12 pour comparer par rapport aux 15 que nous avions avant. On a fait un business plan jusqu'à la fin de la DSP qui s'arrête en 2020 pour retrouver effectivement des moyens pour la commune et puis de savoir où on va, puisque c'est quand même une recette importante que vous m'avez souvent dit, monsieur Lejean, vous êtes pessimiste. Le fait d'avoir été pessimiste dans plusieurs années me prouve bien que j'avais raison, puisque là, effectivement, on se retrouve à être effectivement dans les clous, et le but de maintenant, c'est de repartir de l'avant. Donc voilà, pour information, pour que ça soit bien clair, sachez que 1% de baisse correspond sur un PBJ de l'ordre entre 6 millions, correspond à 40 000 euros de perte, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, je vais le dire, de revenus pour la commune. Ou de gains supplémentaires pour le casino.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Monsieur Bonduel.
Oui, ça va être un peu long, mais bon.
Pas grave, on a le temps.
Quand vous avez démarré le conseil municipal, vous aviez dit que c'était un conseil municipal important. Et je pense que c'est tout à fait vrai. C'est probablement votre conseil municipal le plus important. Parce que c'est celui qui prend acte de renoncement stratégique, et notamment le plus important, la dépendance de Carnac, que vous défendiez tant il y a encore peu de temps. On vient de le voir avec l'intégration de Carnac à l'Office du tourisme communautaire, et on va le voir avec la renégociation de la DSP avec le repreneur du casino de Carnac au groupe Barrière, dont on peut dire que la mairie, par la baisse des redevances, va financer sur des fonds publics un investissement privé. En effet, si on prend la nouvelle répartition des taux, vous faites en gros, alors en valeur brute, parce qu'effectivement, moi, je ne connais pas la valeur nette, donc à partir des chiffres qui ont été positionnés sur la présentation par Madame Lejean, on perd à peu près 210 000 euros par an. 10% sur 3 millions, ça fait 5 points de moins, et 12% au-delà de 3 millions,
ça fait 3 points de moins. Je répète que le mode de calcul... Non, je voudrais juste... Ouais.
Si je peux aller jusqu'au bout, parce que c'est important. Donc sur les 4 années qui nous restent, ça fait à peu près 800 000 euros de pertes. Quand on sait que le groupe qui a repris au groupe Barrière les casinos de Carnac a prévu d'investir 1 million. Donc on a à peu près une correspondance. Et si on rajoute à ce chiffre la perte du compte 471, alors qu'au conseil municipal du 24 septembre, on avait été d'accord et on avait voté à l'unanimité la répartition des 620 000 euros entre 370 000 euros pour la commune et 250 000 euros pour le groupe casino, il y a une perte là de 50 000 euros. Donc déjà là, au niveau du compte 471, on est quand même un petit peu surpris de voir qu'une décision qui a été prise au conseil, alors vous allez me rétorquer, il y a eu une négociation, d'accord, on est... Bon, voilà. Concernant l'article 39, du troisième alinéa. Alors moi je relis, parce que vous avez eu la gentillesse de le mettre en caractère gras, il est marqué « En cas de circonstances extérieures et imprévisibles entraînant un bouleversement de l'économie du contrat, conformément au principe de la jurisprudence administrative, etc., etc., il est procédé au réexamen sur des conditions financières, sur demande, soit de la collectivité concédante, soit de la société concessionnaire sur la base de justificatifs. Les nouvelles conditions financières sont définies par avenant. » Au niveau du contrat, donc cet article 39 ici, est issu d'un contrat qui a été signé par la mairie de Carnac, l'ancienne municipalité, qui a été reconduite d'ailleurs, parce que comme c'est un contrat, la nouvelle municipalité, la municipalité actuelle l'a forcément reconduit. On parle ici d'un contrat qui a été signé par la mairie avec le groupe Barrière. Lors du rachat de la société des casinos de Carnac, propriété du groupe Barrière par la société belge, on va la désigner comme ça, la société belge, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle. Bon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, enfin la société qui a repris. Hein. Voilà, merci. Celle-ci connaissait au moment du rachat le contexte concurrentiel et les termes exacts du contrat DSP. En tous les cas, si les termes du contrat, s'ils n'étaient pas renégociés, ne remettraient pas en cause leur achat, c'est parce que ça n'a pas été une condition suspensive. Donc, le contrat dont on parle est un contrat Carnac-Barrière, signé il y a quelques années dans un certain contexte, le contexte de 99. Racheté en toute connaissance de cause, et dans le contexte actuel, il n'y a pas lieu de modifier quoi que ce soit. Bon, en tous les cas, c'est ma position. Je trouve qu'à partir du moment où quelqu'un rachète une activité privée, dans un contexte qui est connu, hein, on est en 2016, ça a été racheté en 2016, le groupe qui a racheté au groupe Barrière les casinos de Carnac connaît parfaitement la situation économique et la situation concurrentielle. Nous, la mairie de Carnac, on a un contrat en béton qui stipule que la redevance est de 15%, que l'article 471 devait être distribué d'une certaine manière. On a déjà fait un effort au 24 septembre en le répartissant. C'est le conseil municipal du 24 septembre, je pense qu'on pourrait le reprendre. On en a négocié. On a dit que le compte 471 devait être réparti entre 370 000 euros pour la mairie de Carnac et 250 000 euros pour la société repreneuse. Bon, voilà, bon, alors, j'ai mal lu, enfin peut-être qu'on pourrait peut-être me dire si c'est ça ou pas. Bon, je veux bien revenir en arrière, c'est pas un problème. Mais voilà, donc moi, personnellement, je comprends pas très bien. En tous les cas, moi, je serais plutôt d'avis d'aller jusqu'au bout. On a un contrat qui va jusqu'en 2020. Alors, effectivement, Pascal, je connais ce que tu vas me répondre. Tu vas dire, mais d'y voir, mon petit père, tu as fait partie de la commission finance. On a travaillé avec Monsieur Josse et on avait redéfini pour le groupe Barrière. Mais là, on n'est pas dans le même cadre. C'est-à-dire que le groupe Barrière, en 1999, où le groupe Accor et après le groupe Barrière, quand ils sont venus s'installer ici, il y avait un contexte. Bon. Si le groupe Barrière avait continué ses efforts, on aurait pu peut-être faire un effort. Mais là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on est dans une société extérieure qui vient reprendre une société privée en connaissant parfaitement le marché. Et à partir du moment où ce n'est pas une condition suspensive, je ne vois pas pourquoi on remettrait en cause ce contrat, parce que je pense que ce n'est pas bon pour la commune financièrement. Et on finit indirectement par leur faire un cadeau, qu'on le veuille ou pas. Bon, enfin, voilà, moi, c'est mon opinion.
Je vais te répondre, Olivier. Bon, déjà, juste une petite chose. Hein. Il y a la SADT, la Société d'animation et de développement carnacoise, qui fait partie du casino, qui avait effectivement, juridiquement, des maisons-mères qui ont changé. Mais la SADT existe toujours. D'accord ? Donc la Société du casino de Carnac existe toujours. Elle a changé d'actionnaire à la tête, mais elle existe toujours. Donc c'est elle qui a été rachetée, déjà. Première des choses, tu dis qu'on m'a perdu 800 000 euros sur la fin de la DSP. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On a quand même travaillé avant d'arriver à ce niveau-là quelques petites études. J'ai dit qu'aujourd'hui, sur une base de 6 millions de PBJ, 1%, c'était 40 000 euros. On est bien d'accord. On est passé de 15 à une moyenne qui va être, grosso modo, pour moi, arrivée à 12. Prenons 11,50, puisque j'ai fait, on va prendre même un côté négatif. Donc ça fait 3,5 si tu multiplies et tu verras derrière. Sachant que je pense qu'on reviendra rapidement à un taux, enfin à un montant, pardon, qui sera intéressant pour la commune, puisque le groupe Circus s'est engagé à faire des investissements, parce qu'en contrepartie, effectivement, de la baisse du taux, pour être dans, je vous rappelle, dans un environnement concurrentiel, et même avec la baisse de ces taux-là, je vous rappelle que le casino de Carnac a le taux le plus élevé du Morbihan. Soit, effectivement, comme tu l'as précisé, Olivier, je suis tout à fait d'accord avec toi, que lorsqu'ils ont racheté les actions de la SADT, il n'y avait pas de clause suspensive à renégocier le taux. Oui, le compte 471 était, lui, à négocier. Effectivement, ils l'ont racheté en tout état de cause et ils savaient très bien les taux qu'il y avait. Pas de problème. Maintenant, la question s'est posée. Rappelle-toi, on se l'est posé assez souvent. Que fait-on ? Le casino, depuis quelques années, le groupe Barrière a décidé de le vendre, n'a pas eu d'investissement, a besoin d'avoir d'investissement. On a bien vu ce qui s'est passé à côté de chez nous avec la Trinité-sur-Mer et le groupe Partouche. D'accord ? Vous allez me dire, c'est pas la même chose. Soit, ceci dit, on est quand même obligé d'en tenir compte. Que devons-nous faire vis-à-vis de ça ? Aujourd'hui, le groupe Barrière avait décidé de se désengager de différents casinos sur le territoire français, entre autres celui de Carnac. Donc, il était important de trouver un investisseur qui ait les moyens de réinvestir dessus pour redynamiser le casino. Et à partir de là, effectivement, il y a une négociation qui s'est engagée. Sur le PAE compte 471, je vous rappelle qu'il n'appartient ni à la commune, ni au casino. C'est une règle qui a été définie à l'époque par l'État pour l'aménagement d'une station et les abords du casino. Et à chaque fois, je vous rappelle, à chaque fois, il est prévu qu'il y ait un avenant avec un accord des deux parties. Donc ne dites pas que le compte 471 appartient à la commune, qu'on a fait une fleur en donnant 310 000 euros. Je ne suis pas d'accord. Ce qui s'est passé le 24 septembre, vous avez dit, on a voté. On a voté une proposition de négociation dans laquelle je vous ai présenté comment je voulais aborder la négociation avec la SFBC, et dans le compte 471, je souhaitais que la commune récupère effectivement un montant supérieur de ce qui a été fait aujourd'hui. Je n'ai pas pu, j'ai peut-être mal négocié, j'ai peut-être pas été bon, soit, mais voilà. Et c'était qu'une proposition de négociation et pas un vote par rapport à la somme. On soit bien d'accord.
Oui, donc je vois, Pascal, qu'il n'y a pas que les conseillers municipaux d'opposition qui ne défendent pas Carnac.
Non, mais c'est Pascal, c'est bon. Ça n'appelle pas de réponse. Moi, je voudrais juste faire un petit point. C'est vrai que c'est jamais une décision facile hein, d'accepter une renégociation d'un contrat. Pourquoi on l'a fait ? Et au-delà des pures et simples considérations financières. Il s'agit d'une délégation de service public, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un contrat, je dirais, de fournisseur de services ou de prestataire comme un contrat, je dirais, normal et comme la commune peut en avoir beaucoup. Il s'agit d'un véritable partenariat, c'est-à-dire que les intérêts du casino sont certes pas ceux de la commune, mais il y a suffisamment, je dirais, d'intérêts communs pour que ce partenariat se fasse dans un esprit qui est un esprit de collaboration et pas d'affrontement. On a vu encore une fois à la Trinité-sur-Mer quand une commune affronte directement son casino, et un casino, je le rappelle, c'est mortel, hein, il y en a 7 ou 8 qui ont fermé en France depuis le début de l'année, que effectivement les investisseurs connaissaient les conditions de la DSP, connaissaient la situation concurrentielle. Néanmoins, la commune de Carnac n'a pas à imposer à son opérateur des conditions de concurrence qui soient totalement différentes des autres opérateurs du département. Et ça me paraît parfaitement légitime. Et quand les repreneurs nous ont évoqué ce problème, on a évidemment eu une oreille attentive. La solution de la facilité eût été de dire, bah, vous avez signé le contrat, salut, au revoir, comme le propose Olivier, et puis bah, on se revoit dans 4 ans à la fin de la DSP. Okay ? Sauf que dans 4 ans, il y a une fin de DSP, une nouvelle DSP, il y aura un appel d'offres. Combien de personnes vont répondre à l'appel d'offres ? À quel taux vont-ils répondre ? Ça aussi, c'est des considérations qu'il faut garder dans un petit coin de sa tête, M. Bonduel. Et donc, encore une fois, comme pour le tourisme, je ne prétends pas, et je pense que Pascal non plus, avoir la science infuse. Je peux vous dire que la négociation, j'en mène un certain nombre dans ma vie professionnelle, elle a été très rude. On a face de nous des vrais professionnels, des grands professionnels, qui, à la différence d'un grand groupe, investissent leur argent personnel. C'est le patrimoine de M. Pessiot et c'est différent pour dans le cadre de la société belge, mais ce sont des gens qui sont des vrais professionnels. Et encore une fois, moi je ne donne pas de leçons à qui que ce soit, mais je peux vous dire que ça a été chaud, chaud, chaud. On a eu une vraie négociation et aujourd'hui je dois dire que comme dans n'importe quel contrat, et surtout quand on est amené à avoir un partenariat sur le long terme, l'important c'est d'avoir un accord qui satisfasse les deux parties. Parce que si vous avez une partie qui est frustrée, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, ils vont investir plus d'1 million d'euros dans le casino, dans une situation concurrentielle extrêmement tendue, avec un produit brut de jeu qui baisse. Qui baisse de façon inquiétante. On a besoin de changer les machines. Elles n'avaient pas été changées depuis longtemps. Il va y avoir des investissements importants avec des machines totalement modernes. Et moi, je préfère m'inscrire, encore une fois, et pour ménager le futur, dans un partenariat avec quelque chose qui est équilibré et qui nous place toujours parmi les taux, le taux le plus élevé du Morbihan. Donc je pense que c'est une négociation raisonnable. Encore une fois, on est dans une collaboration, pas dans un affrontement. Je comprends très bien votre position, Monsieur Bonduel, et je ne dis pas que votre position ne fait pas sens. Je dis simplement qu'il y a un moment, quand on a l'ensemble des paramètres, et je pense que les paramètres futurs sont aussi très importants à garder dans un coin de sa tête, je pense que c'est une solution raisonnable. Encore une fois, l'opérateur aurait voulu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je peux vous dire qu'on a regardé la situation de tous les casinos de France. On s'est fait même aider par un cabinet de conseil parce que c'est un dossier quand même très, très compliqué. Et évidemment, vous imaginez bien que Pascal Lejean, qu'il faut pratiquement violer pour dépenser 1 euro dans certains départements de la commune, est pas ravi de lâcher de l'argent, et moi non plus. Et c'est toujours très douloureux de faire ce genre de décision, et on n'a pas voulu aller trop loin. C'est pour ça que la négociation a été compliquée. Maintenant, voilà, ça m'arrive de négocier des choses. Parfois, je fais des bonnes négociations, parfois des mauvaises négociations. Il y a des contextes qui sont particulièrement compliqués, avec des négociateurs qui sont particulièrement retors, rusés, habiles et des très grands professionnels. On a, je pense, en notre âme et conscience, Pascal et moi, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, à Paris, ici, on y a passé du temps. Et franchement, je pense que c'est l'accord qui préserve au mieux la relation entre l'opérateur et la commune et les intérêts financiers de la commune. On aurait pu choisir autre chose. Encore une fois, notre âme et conscience, je pense que dans le respect et la défense des intérêts stratégiques de la commune, même si c'est votre rôle dans l'opposition de dire on aurait pu faire autrement, ce que je conçois aussi, je pense que ça préserve les intérêts stratégiques de la commune. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous dans 4 ans, parce que dans 4 ans, il y a une nouvelle DSP. Et là, ça va être crucial pour la commune. Crucial. parce que il va falloir qu'on maintienne des taux comme ça. Et je peux vous dire que ce n'est pas la moyenne des taux nationaux, et qu'elle est même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse. Et c'est ça le véritable enjeu, M. Bonduel. Ce n'est pas de dire « Ah là là, vous avez cédé ». Oui, on a cédé. Oui, on a cédé. Mais on a cédé de manière raisonnable, de manière à préserver l'avenir.
Non, ce n'est pas, ce que je dis. Enfin, c'est ce que je dis, bien sûr. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez une société qui a racheté une exploitation en toute connaissance de cause et que la renégociation au niveau du compte 471, non, c'est, compte 471, c'est un peu différent. On a une obligation, c'est un peu différent. Et au niveau de la redevance, cette négociation est devenue après la signature du rachat. Moi, c'est un truc qui me dépasse. En tous les cas, je crois qu'il fallait aller jusqu'au bout, tirer la corde au maximum, et après, dans 4 ans, ben, on aurait vu, de toutes les façons, dans 4 ans, la société qui a racheté les casinos de Carnac va être à la table des renégociations, et à mon avis, ils vont être au taux les plus bas. Quoi. Enfin, bon, ils sont pas idiots non plus. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ça. C'est,
Monsieur
on
Bondel,
a,
Monsieur
on a une société qui rachète une société privée en toute connaissance de cause du marché, ce qui n'était pas le cas du groupe Barrière.
Monsieur Bonduel, est-ce que je peux vous faire une proposition? Est-ce qu'on peut, dans les semaines qui viennent, se voir en tête-à-tête avec Pascal et de vous ouvrir totalement ce dossier, de manière totalement transparente, et vous expliquer, parce que je ne peux pas le faire comme on ne peut pas le faire totalement comme ça en public, pourquoi on a pris cette décision? Parce que ce dossier, il est relativement complexe. Et croyez-moi, je suis un petit peu dans ce monde de l'entreprise, c'est la meilleure décision pour la commune.
Ben, moi, je suis d'accord si on peut être à deux avec Monsieur de Repère.
Si j'ai un engagement solennel de votre part...
Et ça restera confidentiel.
Si j'ai un engagement de totale confidentialité de votre part, mais je suis un peu échaudé avec le dossier Super U, je serai prêt à le faire. Mais je veux un engagement solennel.
De mon côté, vous l'avez.
Je voudrais juste terminer, Olivier, quand tu dis ça. Alors, sur le fond, tu as entièrement raison. C'est la première question qu'on s'est posée, tous. Entre autres avec Olivier, avec Paul, parce qu'on a quand même un moment pas les mêmes points de vue. Et on s'est dit, effectivement, ils viennent de racheter. Ils ont acheté quelque chose. Ils connaissent la règle du jeu. On est surpris de... On est bien d'accord, le compte 471 EPE, on le met de côté, puisque effectivement, dès le départ, quand je les ai rencontrés la première fois, la première chose que je leur ai parlé, c'est de ça, puisqu'il fallait le solder. C'est le reste. Ils ont des arguments, et on en discutera, et c'est pour ça que M. Lepic me dit qu'effectivement, on ne peut pas dire tout aujourd'hui, ça prendrait trop de temps, et donc on est tout à fait disposé, mais comme je l'étais l'autre jour, sans aucun problème, à vous donner tous les documents et à vous les expliquer, et être à votre disposition pour vous dire comment on est arrivé là. Mais sache que ce que tu viens de dire aujourd'hui, la première des questions qu'on s'est posées, c'est celle-là. Si on a pris la décision d'effectivement d'aller autour de la table et d'engager des négociations, c'est parce qu'il y avait un intérêt pour la commune.
Bon. Si, enfin voilà, moi je suis prêt à ouvrir les livres, Olivier. Encore une fois, je veux. On est dans une relation qui est à la fois de collaboration, mais également une relation commerciale. Et je pense que toi aussi, tu es dans le monde économique et tu sais qu'il y a un certain nombre d'informations qui n'ont pas vocation à être, dans le cadre d'une négociation, qui n'ont pas vocation à être rendues publiques. C'est important, mais en revanche, les conseillers municipaux peuvent et doivent être informés et j'ai aucun souci là-dessus. Simplement, je veux cet engagement solennel que ben, ça reste, parce que ce sont des informations que vous aurez dans le cadre de votre fonction et je ne veux pas qu'il y ait des photocopies ou des choses qui partent dans la nature à des gens qui peuvent, ou qui poursuivent la commune, comme c'est le cas au moment du Super U, ou qui pourraient, avec lequel on pourrait avoir un conflit juridique, c'est tout. Voilà. Et moi, je me contenterai de la parole, parce que je n'ai qu'une parole, et si tu me la donnes, je te ferai confiance.
C'est bon.
Madame Bagarre.
Oui, mais une question, quand ce sont des sujets aussi importants que cette renégociation, c'est la commission dite pour les DSP, Pourquoi ne se réunit-il pas?
Alors, on s'est posé la question, et comme vous l'avez vu dans les décisions du maire, on s'est attaché les services d'un cabinet spécialisé dans ce genre de choses, et en l'occurrence, le cabinet nous a dit que ce n'était pas la peine parce que la modification n'était pas substantielle. Donc, on s'est posé la question et on a fait une vérification juridique.
Oui, mais comme ça, ça éviterait peut-être justement des incompréhensions.
C'est encore mieux, Madame Bagarre. On a tous les conseillers municipaux autour de la table. Donc c'est mieux qu'une commission dans laquelle il y a très peu de gens.
Et avant
Madame, attends.
Pardon.
Pascal. Madame.
Lui d'abord. Pas de problème. Juste une question. On l'a déjà vu. Il y a un classement de la rentabilité, enfin des casinos, par rapport à leur rentabilité. Le casino de Carnac, il est dans à quelle position?
Pour l'instant, il est dans le rouge.
Pas la réponse.
Ben, je vous la donne, parce que là, l'une des problématiques, c'est quand vous avez, dans un compte de résultats qu'on vous présente, et que vous voyez que la commune, l'État, les collectivités locales, communes ou pas, et le casino se retrouvent, lui, en négatif, alors que l'État et les communes ont prélevé des sommes importantes, ce qui s'est passé à la Trinité, la durée de vie du casino ne dure pas longtemps. Ça a été l'une des décisions, et ça a été l'un des points forts qu'ils ont soulevé. Et effectivement, dans le business plan A, 15%, ils nous l'ont montré. Et effectivement, cette année, c'est une année compliquée, et qu'ils vont se retrouver, alors, pas tout à fait dans le rouge, mais à l'équilibre, puisqu'il y a eu d'énormes efforts qu'a fait le nouveau directeur depuis qu'il est arrivé depuis 2014. Mais il y a eu des années qui ont été dans le rouge. Et la rentabilité du casino de Carnac, si à un moment, dans les casinos moyens, il était dans le peloton de tête, là, il est dans le peloton de queue.
Ce n'est pas tout à fait la réponse. Et quand vous dites qu'ils sont dans le rouge, il me semble bien que l'année dernière, quand ils ont présenté leur compte, c'est parce qu'ils avaient provisionné suite à des problèmes avec le personnel. Donc, c'était ça qui les mettait.
Bon, je vous propose de passer au vote. Donc, on va passer au vote des deux rapports. La répartition du compte 471, hein, donc à 50-50. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? D'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes pour? Je vous remercie. Ce rapport est donc adopté. Ensuite, la délégation de service public, l'avenant numéro 4, la modification des taux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Parfait. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes pour? Je vous remercie. On passe maintenant donc à ce rapport numéro 9, encore un projet important pour la commune. Et je passe la parole à M. Chapelle sur l'aménagement du projet du boulevard de la plage.
Bien. Alors, la décision qui est soumise au vote n'est pas forcément très spectaculaire au niveau technique et juridique, mais elle est pour moi hautement symbolique et surtout pour le maire et son équipe, parce qu'il s'agit là de lancer véritablement le chantier du boulevard de la plage. C'est un respect du programme. Et là, on pourra dire, au-delà de toutes les études qui ont été fournies depuis des années, on peut dire qu'aujourd'hui, si cette décision est votée, c'est vraiment le point de départ de ce chantier, qui sera évidemment compliqué. Il y aura des obstacles, mais le départ est donné. Alors, la première étape, pour ceux qui étaient à la réunion publique, il s'agissait donc, au tout début, de choisir le maître d'œuvre. Alors, j'avais fait une analogie avec la construction d'une maison d'habitation. Lorsqu'on veut construire une maison, on choisit un architecte. L'étape, ce qui est soumis au vote aujourd'hui, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est de lancer un appel d'offres pour choisir le maître d'œuvre. En matière de marché, il y a deux possibilités de lancer la maîtrise d'œuvre. Vous avez le marché à procédure adaptée, qui est une procédure très très simple qui concerne les marchés dont le montant est inférieur à 200 000 euros. Et vous avez ensuite la procédure, ce qu'on appelle formalisée, pour les montants qui sont supérieurs à 200 000 euros. Je parle ici évidemment pas du montant des travaux, mais du montant de la prestation de service. En l'occurrence ici, on va lancer un appel à maîtrise d'œuvre, donc choisir un bureau d'études qui sera chargé de la maîtrise d'œuvre du projet. Le montant de 200 000 euros n'a pas été calculé par hasard.
Nous sommes donc partis de l'investissement prévisionnel du chantier du boulevard de la Plage, soit 3,5 millions d'euros hors taxes. Sur ce montant de 3,5 millions hors taxes, on applique une valeur moyenne d'honoraires de maîtrise d'œuvre, à savoir, ça peut varier entre 5 et 6,5. On a pris 6%. En prenant 6%, 6 fois 5, 30, 6 fois 18, on arrive à 210 000 euros. Donc, on aurait pu, à la limite, passer le marché en procédure adaptée si on était sûr que le montant du chantier était inférieur à 3,5 millions et les honoraires inférieurs à 6% de façon à être à moins de 200 000 euros. Mais évidemment, ça ne nous laisse aucune marge de manœuvre par la suite en cas de dépassement du montant du chantier. La somme de 3,5 millions, qui est le budget prévisionnel pour le chantier du boulevard de la Plage, peut évidemment varier suivant les contraintes que nous avons et que nous aurons. Donc, il a été décidé de choisir la procédure la plus sécurisée, c'est-à-dire la procédure formalisée. Parmi ces procédures formalisées, il y en a trois. Il y en a une qui est la plus rapide, c'est l'appel d'offres ouvert. Alors, l'appel d'offres ouvert, c'est une procédure qui est plus courte. Et évidemment, au moment où les chantiers seront ouverts, ça passera en commission d'appel d'offres. C'est une procédure qui est plus courte parce qu'elle ne fait pas appel, si vous voulez, à des esquisses obligatoires. C'est-à-dire que vous avez dans les trois procédures formalisées, la première permet de s'appuyer sur une pré-étude qui a été faite par le cabinet OTIS. Le cabinet OTI, c'était à la fois une étude de faisabilité, mais nous avions décidé également dans cette étude de faisabilité d'intégrer des croquis, des projets d'aménagement que vous avez pu découvrir à la fois en commission d'aménagement cadre de vie, en réunion qui ont été présentés aux commerçants, également principalement en réunion publique. Les deux autres procédures formalisées nécessite des esquisses dressées par le maître d'œuvre. Et la différence est importante puisque ces esquisses demandent des délais complémentaires et une double procédure de réponse. Et donc, et aussi un coût supplémentaire puisqu'on doit payer les esquisses. D'où la justification d'avoir choisi OTIS à l'origine, qui a non seulement fait une étude de faisabilité avec un récapitulatif des contraintes de boulevard de la Plage, mais aussi qui a avancé dans le projet d'esquisse. Donc ça, c'est cette procédure qui nous permettra de gagner du temps. Alors, si vous avez lu les différentes lignes que l'on doit mettre dans ce projet, dans cet appel d'offres, bon, ce sont des termes génériques hein, qui figuraient en partie dans l'étude de faisabilité. Bon, ça fait partie des arguments qu'il faut donner au maître d'œuvre dans l'appel d'offres. Donc, ce sont des termes vraiment. Il faut le justifier dans la délibération, mais ce n'est pas ça qui détermine évidemment le projet. Hein. Lorsque le maître d'œuvre sera choisi, nous lui communiquerons dans un deuxième temps, évidemment, l'étude de faisabilité qui a été fournie par le cabinet OTIS, de façon à ce qu'il avance concrètement dans le projet, qu'il fasse une proposition suivant le cabinet qu'on aura retenu, qu'il fera une proposition de dessin et d'aménagement, et que ce sera l'occasion à ce moment-là pour nous, tous ensemble, de débattre sur la configuration même de cet aménagement.
Merci. Des questions ?
Oui, justement, ce que M. Chapelle vient d'évoquer nous a posé problème, parce qu'il est évident que si vous nous demandez notre accord pour un aménagement de la plage, du boulevard de la Plage, on va répondre oui. Si vous nous demandez d'approuver un coût, enfin une enveloppe prévisionnelle, évidemment, on va vous dire oui si le projet le mérite. Mais cette longue liste d'objectifs là que l'on a lus, ça nous pose problème parce que on a vraiment l'impression en effet que c'est un copier-coller qui pourrait convenir à n'importe quelle station, alors qu'on aurait préféré avoir des formules déjà un petit peu plus compréhensibles. En particulier, moi je ne comprends pas ce que c'est qu'augmenter les possibilités d'usage de l'espace public par une valorisation socio-économique des espaces balnéaires, par exemple. Il y en a d'autres qui nous paraissent contradictoires. Comment on optimise et on améliore le stationnement tout en redonnant une place importante aux piétons et aux liaisons douces. Et enfin, il y en a certaines qui sont tellement ouvertes et floues que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, on aurait aimé des choses plus concrètes, plus précises, et pas être contraint de faire un choix oui ou non. Voilà.
D'accord.
Donc, est-ce que les termes ne sont pas...
Je comprends vos remarques, Madame Magard. Je ferai juste deux remarques. J'imagine que vous étiez à la réunion publique ou à la commission. Vous avez vu les propositions quand vous évoquez les termes un petit peu administratifs et fourre-tout du rapport. Vous avez vu concrètement en quoi consistait réduire la place de la voiture, puisqu'il y a un certain nombre de propositions sur les parkings qui ont été faites, qui ne sont pas les propositions définitives, mais qui résument un petit peu l'état d'esprit dans lequel on veut mener ce projet. Et l'état d'esprit, c'est bien évidemment de mettre en valeur les espaces naturels, de réduire la place de la voiture, d'avoir des circulations douces, parce que je pense que tout le monde en convient, les pistes cyclables du boulevard de la Place ne sont pas des pistes cyclables, elles sont dangereuses, et il nous faut des pistes cyclables en site propre, il nous faut une promenade qui soit un peu plus valorisée sur le boulevard de la Plage, il nous faut des endroits où on trouve un certain nombre de services aujourd'hui qui n'existent pas, il nous faut une fragmentation des destinations de la Grande Plage avec des espaces pour les jeunes, des espaces pour les familles. Tout ça a été, je pense, remarquablement expliqué par le consultant lors de la réunion publique. Et à ce stade, on vote sur des principes généraux, c'est-à-dire sur le lancement du projet. Évidemment, on sera tous amenés non seulement à travailler sur ce projet, parce que les cabinets vont nous faire des propositions, et deux, on sera amenés à prendre des décisions sur les partis pris que proposeront les cabinets. C'est-à-dire que... il y a évidemment une volonté de ne pas encadrer de manière trop forte la créativité des cabinets, comme on l'avait fait. Enfin, moi, je me souviens avoir participé à l'appel d'offres de la médiathèque. Il faut absolument que les cabinets se sentent libres de proposer parfois même des choses un petit peu surprenantes. Je ne sais pas si vous êtes allé à Bénodet, mais il y a des aménagements qui sont parfois un petit peu surprenants, qui, d'un premier abord, peuvent heurter les élus. Puis finalement, une fois qu'on les étudie, qu'on y travaille tous ensemble dans les groupes de travail, eh bien, on se rend compte que c'est la bonne solution pour la commune. Donc, je comprends tout à fait votre propos, c'est normal. D'abord, c'est un jargon administratif et on le retrouve dans tous les rapports. Mais il y a toujours un équilibre à trouver entre, je dirais, des instructions qui soient suffisamment claires, mais qui n'obèrent pas la créativité des cabinets. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire, même si je conviens bien que c'est pas extrêmement précis. Mais en tout cas, je peux vous dire que nous, dans l'équipe, et je pense que ce qu'on a présenté en réunion publique, c'est suffisamment précis et c'est ça porte suffisamment de conviction pour que justement les cabinets puissent s'exprimer dans ce cadre. Donc je vous donne rendez-vous, j'allais dire, quand les travaux vont véritablement commencer, quand on va recevoir les projets. Et là, on aura besoin de tous les conseillers municipaux pour donner leur avis sur cet aménagement. Parce que, encore une fois, le boulevard de la Plage, dans mon esprit, c'est la première étape de la rénovation de l'ensemble des plages de Carnac. Hein, c'est-à-dire que l'objectif, c'est évidemment de faire le boulevard. Mais dans les années qui viennent, peut-être même dans les mandatures, enfin, peut-être d'ailleurs ce sera qui que ce soit d'ailleurs à la tête de la commune, peut-être l'objectif, en tout cas moi ce serait le mien, eh bien ce serait de déployer sur les Genèses, sur Saint-Colomban, sur Tibien et pourquoi pas Beaumère, eh bien cette même touche sur laquelle on va travailler. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas se tromper, parce que d'abord c'est un lieu stratégique, évidemment la Grande Plage, hein, les gens y viennent le week-end, pas seulement les Carnacois, mais de tout le département, et donc on ne peut pas se permettre de se planter. Et je pense qu'il faut laisser aussi les cabinets, puisqu'il y a beaucoup de cabinets. Je peux vous dire que moi, je suis contacté quasiment toutes les semaines par les cabinets, parce que c'est, même au niveau français, c'est un dossier qui est déjà aussi regardé aujourd'hui par tous les grands cabinets d'aménagement. Et donc, je pense qu'on aura sûrement des propositions intéressantes. À ce stade, on n'en est pas là, mais on va tous avoir à travailler sur le dossier.
Oui, d'accord, j'entends bien que vous me compreniez, enfin que vous nous compreniez, mais vous nous demandez quand même d'approuver les objectifs. Donc,
Alors, Madame Bagard, toutes les phrases qui sont là, on peut les expliquer. Je ne sais pas si c'est nécessaire, parce que ce n'est qu'un résumé très, très succinct de la réunion publique. Quand vous voyez la première remarque, on parle de valeur paysagère et sociétale du site. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier schéma. Valeur sociétale, c'est par exemple de tenir compte dans un futur aménagement de différentes zones qui a lieu sur la Grande Plage, à savoir un endroit où il y a plus de commerce, un autre où il y a le plus de jeunes, un autre où c'est plus une plage famille. Voilà ce que ça veut dire, par exemple, exigences sociétales. Dans la deuxième phrase, les aspects esthétiques, créativité dans les aménagements, ça veut dire ce que ça veut dire. On veut des aménagements nouveaux, on veut quelque chose qui soit beau. Ça en fait partie. Préserver le patrimoine naturel, ça a du sens. Augmenter les possibilités d'usage de l'espace public par une valorisation socio-économique. Valorisation socio-économique. Quand on aménage une rue, qu'on y apporte un intérêt, une augmentation de fréquentation, évidemment, ça valorise le site et les commerces environnants. Donc, c'est la valorisation socio-économique. Ouvrir le littoral au plus grand monde, c'est pareil, c'est l'attractivité.
Je ne demande pas qu'on me fasse une explication de texte quand même.
Non, je suis à votre disposition.
Je trouve que c'est vraiment très flou.
Quoi. Oui, c'est vrai. Voilà.
Mais bon, libre à vous de ne pas voter ce rapport, Madame Bagar. J'ai aucun souci avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ?
La remarque, vous disiez, Monsieur Chapelle, que quand on lit, c'est considérant la nécessité de réaliser une étude de faisabilité préalable à l'aménagement du boulevard de la plage. Et elle est faite, cette étude, puisque vous l'avez dit.
Oui, bien sûr.
Alors,
L'étude de faisabilité, elle aura aussi... l'étude de faisabilité... Ça prend en compte beaucoup de choses. Elle a été en partie, en 90%, faite par le cabinet OTIS. Mm-hmm. L'étude des faisabilités prend les contraintes financières, techniques et aussi l'opportunité de faire cet aménagement. Voilà ce qu'il y a dans une étude de faisabilité. Alors, évidemment, ça s'imbrique aussi dans la mission, dans le projet voulu de l'aménagement du boulevard de la plage, qui est de renforcer une attractivité. Alors là, évidemment, on va retrouver dans ce marché de maîtrise d'œuvre et dans les marchés qui seront attribués par la suite, les contraintes techniques, les contraintes financières. Si vous voulez, le mot faisabilité, c'est un terme générique qui est obligatoire dans les marchés. C'est comme le... On parle de marché à procédure adaptée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est le terme.
D'accord. Mais ce que je veux juste dire, c'est que la nécessité de réaliser une étude de faisabilité, celle-là, quelque part, c'est écrit, mais il n'y a pas lieu que ce soit écrit, puisque c'est fait.
C'est l'étude qui a été faite. C'est marqué au TIS.
C'est noté. Considérant la nécessité de réaliser une étude, la phrase est en trop, finalement. Vous comprenez ? On nous demande de signer le bordereau, mais cette phrase-là n'a pas lieu d'être.
Oui.
Non, mais, et alors mais, parce que quand on vote un bordereau, tout doit être précis.
Oui.
Non, mais c'est...
Même si dans la maîtrise d'œuvre, il y aura un peu d'études de faisabilité aussi, on peut le supprimer. Hein. Si ça vous gêne...
Ce qui est important, c'est qu'on mène à bien ce projet. Ça, c'est important. Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes pour ? Je vous remercie. Ce bordereau est adopté. On passe donc à la dénomination de voie de lotissement Le Clos des Aubépines. Monsieur Marc Albert.
Donc c'est le promoteur immobilier qui a fait un lotissement et qui voudrait dénommer sa voie
du Clos des Aubépines pour la sécurité, pour que s'il y a un problème, que les pompiers soient là, les gendarmes soient là, que tout se sache. Donc il voudrait appeler ça l'impasse du Clos des Aubépines. Ils ont cherché longtemps. Donc, est-ce que... Ils ont lancé une étude pendant 6 mois et donc le lotissement des Aubépines aura une rue qui s'appellera l'impasse du Clos des Aubépines. Si quelqu'un voit, personne n'a d'inconvénient, on peut valider.
Parfait. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette dénomination très surprenante du Clos des Aubépines ? Pas de remarques ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, cession de terrain, domaine d'État d'Orne, toujours Monsieur Marc Albert.
Oui, au domaine d'État d'Orne, on avait un impasse qui était là depuis très longtemps, qui n'aboutit à rien et qui était un petit peu à cheval et même dedans le domaine d'État d'Orne. Donc, ils nous ont demandé de l'acheter. Ça a duré un petit moment. Puis, on s'est mis d'accord sur un prix de 20 euros le mètre carré. On a vendu ce qui était chez eux. On s'est arrêté juste à une limite où, de façon que les gens qui habitent dans le quartier puissent bien sûr rentrer chez eux. Donc, voilà, il y a à peu près... 79 mètres carrés à 20 euros le mètre carré, voilà. Donc, la discussion s'est arrêtée là avec eux, ils étaient d'accord donc pour mettre ça en vente, qui à nous ne nous sert jamais, qui d'ailleurs est dans le domaine d'État d'Orne depuis des années et ça ne change rien. Voilà. Merci.
C'est fixé par
le prix là je. Non, on était à 20 euros du mètre carré. Alors, ça a été fixé, bon, en sachant que, à la limite, dans quelques années, ils auraient pu réclamer la prescription acquisitive, puisqu'ils en avaient l'usage depuis déjà très longtemps. Donc, c'est mieux d'avoir 20 euros que rien du tout.
Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette session? Pas de commentaires? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. On passe aux questions d'hiver et orales. Et donc, il y avait une question de M. Deripère à propos de l'état du dossier Bellane-Bellevue. C'est bien ça, M. Deripère? Je vais laisser M. Chapelle répondre.
Alors oui, la question concernant ce dossier. Bon. Si j'avais assigné ce dossier aujourd'hui, le dossier de concession avec EADM, je ne le signerai pas. Il a été signé à l'époque, dans un contexte sans doute différent, mais c'est un dossier qui ne me plaît pas. Qui ne me plaît pas. Pourquoi ? Parce que la commune s'est portée caution, comme vous le savez, à hauteur de 80% d'un emprunt de 3 millions d'euros. La commune s'est portée caution à l'époque pour un projet et a laissé la négociation, évidemment ça se faisait à l'époque dans un contexte différent, elle a laissé donc le pouvoir au syndicat mixte EADM, qui s'appelait, qui avait un autre nom à l'époque, le pouvoir de négocier l'acquisition de parcelles et de mettre en œuvre donc un projet d'aménagement. La contrepartie de EADM, c'est il touche en plus des honoraires dans la négociation. C'est-à-dire qu'eux ne prennent aucun risque, puisque la commune est caution à hauteur de 80% de l'investissement. Donc si le dossier échoue, la commune doit payer. Non seulement ça, on les a mandatés également pour négocier l'acquisition, moyennant rémunération. Dans le contrat qui a été signé à l'époque, il y a également des rémunérations qui sont prévues au profit de EADM sur le montant des travaux. Donc il y a en gros 4%, si j'ai bonne mémoire, sur la négociation de l'acquisition des parcelles, 4,5% sur le montant des travaux et un autre pourcentage encore sur d'autres analyses. En plus, EADM, au jour d'aujourd'hui, a donc acquis, je vais rester sur des valeurs moyennes, environ pour 2 500 000 euros de foncier. Pour 2,2 millions pour Bellane et à peu près 300 000 euros pour Bellevue. Donc, EADM doit payer tous les ans en fonction des acquisitions réalisées pour des parcelles qui ne font pas encore l'objet de projets d'aménagement. Alors, il y a des torts, sans doute, peut-être des retards qui ne sont pas imputables totalement à EADM. Il y a eu les zones humides, il y a les contraintes de la DRAC, il y a le PLU, il y a les nouvelles contraintes de logements sociaux, ont fait que ce dossier traîne en longueur. Ce que je regrette, c'est que EADM ait procédé aux acquisitions. Et jamais on aurait dû donner, mais c'est facile de le dire maintenant, je peux donner les chiffres du loto aussi de la semaine dernière, j'aurais peut-être pas fait mieux non plus à l'époque, mais le constat est là et nous sommes bien obligés aujourd'hui de reprendre les engagements qui ont été consentis à l'époque. Nous sommes dans une situation difficile dans ce dossier pour deux raisons. Je vous ai dit la première, à savoir le retard avec le PLU, les contraintes de la DRAC, etc. Donc là, on en est encore à plus les zones humides. Donc on a encore le dossier Bellevue aujourd'hui, même s'il est presque bouclé au niveau de l'aménagement. On est obligé de le revoir pratiquement complètement, ou en tout cas avec une perte qui est estimée maintenant à 200 000 euros supplémentaires due à cette zone humide. DMO a été contacté encore la semaine dernière pour essayer de travailler sur les mesures de compensation, mais les mesures de compensation sont très difficiles pour essayer de diminuer la zone humide. Enfin bref, on a un équilibre de l'opération qui au départ était de moins 1 million pour Bellevue, à savoir que le déficit de Bellevue correspond à la cession gratuite voulue par la commune à l'époque au profit de EADM pour 570 000 euros et une participation de la commune à hauteur de 400 et quelques mille euros. Donc ça, c'est le déficit Bellevue. Aujourd'hui, pour le programme de Bellevue, si on veut le mettre en œuvre, nous avons appris hier, puisque j'avais une réunion tout l'après-midi avec EADM, que le déficit pour Bellevue serait creusé sans doute si les choses en restaient en l'état au niveau de la délimitation de la zone humide, à 200 000 euros supplémentaires, soit Bellevue déficit d'1,2 million. Au niveau de Bellane, force est de constater, et nous avons eu des négociations assez virulentes avec EADM, sur les prix d'acquisition qui ont été consentis à l'époque. Alors, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire dans quelle mesure ces prix ont été validés par la commune. C'est la question que je me posais hier. Il y a évidemment un avis des domaines, mais en tout état de cause, je pense que ça a été fait dans les règles de l'art, ça a été acheté à un prix, mais qui, au fur et à mesure du temps, ce prix d'achat s'est avéré trop élevé. Et peut-être c'est un défaut de la négociation de ADM, qui pourtant, je l'aurais rappelé hier, il touchait des honoraires sur cette négociation. Il touche des honoraires pour une négociation qui, à mon sens, c'est un avis personnel, c'est pas l'avis du maire ni d'un autre, à mon sens, ont été mal menés. On s'aperçoit aujourd'hui qu'au fur et à mesure de toutes ces contraintes, que le marché s'est un peu retourné au niveau immobilier, que les prix d'acquisition d'origine ont été sans doute surévalués, les contraintes de la DRAC aidant, on arrive à un prévisionnel pour Bellane qui est vraiment inacceptable. On ne va pas dire le montant, on ne le connaît même pas encore, qui est inacceptable. Donc là, je vous avoue que la semaine dernière, nous avons demandé les services d'un avocat avec qui nous avons échangé pendant plusieurs heures. Et au jour d'aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence pour une seule raison, c'est que EADM, d'après ce que j'ai compris hier, n'est plus en mesure de financer les échéances trimestrielles. N'est plus en... Oui, que vous aviez voté aussi. Ça, on ne va pas rentrer sur la polémique, ça n'a pas d'intérêt.
On avait prévenu.
Ça n'a pas d'intérêt. Non, mais je parle...
Je pense que personne n'intéresse qu'on fasse de dossier un dossier politique, parce que sinon, on peut aussi totalement ouvrir les livres. Et je pense que là-dessus, personne, il n'y a pas de coupable, ni dans la municipalité précédente, ni dans les anciennes. Dossier compliqué, je termine. Oui. C'est un dossier compliqué, dans lequel l'ensemble des compétences sont les bienvenues. C'est un dossier très compliqué. C'est un dossier stratégique, parce que le logement dans la commune, c'est stratégique également. Et Monsieur Chapelle est totalement transparent, comme vous pouvez le constater sur le dossier. Et donc, j'aimerais qu'on évite d'en faire un dossier sur lequel on va s'écharper, parce que, franchement, c'est hors de propos. Je pense qu'on a tous intérêt à ce que ce dossier, on en sorte de la manière la plus, évidemment, intéressante financièrement pour la commune, mais également la plus intéressante pour le développement de la commune, parce qu'on a besoin de faire des logements, et notamment de l'accession à la propriété pour les jeunes familles. Donc, vous avez vu que la présentation était tout sauf polémique. On n'a pas... C'est un dossier qui a été initié par la municipalité Michel Graal, qui a été continué par la municipalité Jacques Bruno, et dont aujourd'hui on hérite des... Donc franchement, moi je souhaite pas qu'on mette une responsabilité sur qui que ce soit. On essaye aujourd'hui de le gérer au mieux pour la commune.
Monsieur le maire, si je puis me permettre, là par contre je vais oser. Quand il s'agit de dénoncer quelqu'un qui a mal négocié, vous privez pas. Marc Le Rouzic en prend suffisamment. Là, ce contrat, à l'époque, vous parliez de Michel Graal, c'est bien, c'était ma question de donner les dates. Qui était adjoint aux finances ou premier
adjoint? Madame Le Golvan, attention, parce que c'est sous Jacques Bruno que les mandats de vente ont été donnés. Oui. Et donc, attention à ce que vous dites.
La signature du contrat, attention. C'était vous.
Non, mais c'est pour ça, madame, je vous tends la perche, Madame Le Golvan, pour que vous ne fassiez pas l'erreur. Parce que vous ne connaissez pas bien le dossier de rentrer dedans. Et les mandats de vente ont été attribués lorsque vous étiez adjointe avec M. Bruno. Donc, ne rentrez pas là-dedans.
Le contrat initial.
Non, mais le contrat initial n'avait rien à voir, puisque le problème... Madame Le Golvan, encore une fois, vous avez un peu du mal à comprendre le problème. Le problème, c'est que, essentiellement, c'est que les terrains ont été achetés trop cher par l'ADM. Et les mandats ont été, les mandats de vente, la façon dont on a donné à EADM le droit d'acquérir ces terrains, ont été signés par la municipalité précédente. Encore une fois, je ne veux attribuer des responsabilités à personne dans ce dossier. C'est un dossier qui a été initié sous trois municipalités différentes. Et encore une fois, si vous le connaissiez bien, je pense que vous ne rentriez pas là-dedans, parce que moi, je ne veux pas rentrer là-dedans.
Voilà. Alors moi, le côté polémique ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comment en sortir de la meilleure façon qui soit du côté juridique et du côté financier. Voilà. La polémique, aucun intérêt, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Nous aurons une réponse la semaine prochaine sur la conduite à tenir par rapport à ce contrat de concession. Donc, ce contrat, à l'origine, prévoyait également une disposition qui est assez néfaste, c'est-à-dire un préavis, en gros, d'un an pour sortir de ce contrat. Donc, j'ai demandé hier à EADM, et qui était accompagné de la directrice financière de EADM, de pouvoir déjà renégocier cela, parce que un délai d'un an, c'était également l'avis de l'avocat qui était consulté mardi ou mercredi, ce contrat d'un an est vraiment, vraiment à revoir. Donc je pense que EADM sait que et sera disposé à revoir ce contrat d'un an. C'est très important, parce que si on veut se sortir, ou si on doit sortir de l'opération, on aura l'avis de l'avocat la semaine prochaine ou un peu plus tard, ça nous permettra de sortir sans frais, je vais dire, ou à moindre frais. Parce que lorsque ce contrat de concession a été signé, il n'y a pas de principe de révocation prévu, finalement, sauf ce préavis d'un an. Et le contrat de concession termine en 2019. Et évidemment, le contrat de concession et la durée de ce contrat de concession correspond à la durée d'emprunt. Or, d'ici 2019, force est de constater qu'on n'arrivera pas à établir le projet. Donc, vraisemblablement, il y aura obligation de renégocier le prêt. Alors maintenant, comment fait-on ? On verra la semaine prochaine, mais le risque, d'après l'avocat, semble énorme, puisque EADM, maintenant, est vraiment en incapacité financière de poursuivre le projet. Sauf si on donnait notre accord aujourd'hui sur les bases qu'il propose, mais qui sont des bases différentes de celles qui ont été conclues à l'origine, à savoir un équilibre financier parfait sur Belan. Or, aujourd'hui, ils ont fait un petit projet sur, ne serait-ce que sur les parcelles acquises. Ils ont acquis en gros la moitié des parcelles du programme Belan, en faisant une projection vraiment à la louche sur une opération qui serait menée sur le foncier déjà acquis, c'est-à-dire à peu près la moitié de la superficie du Belan, même en ne faisant que cette moitié-là, sans logements sociaux, parce que ça coûte très cher, on serait quand même un déficit énorme, énorme. Qui n'a pas pu chiffrer précisément, mais on serait de toute façon dans le rouge. Alors, de deux choses l'une, soit l'année prochaine, EADM dit à la banque, on ne peut plus honorer notre dette, auquel cas, nous passons à la caisse, ça c'est clair, la caisse d'épargne, pour ne pas la nommer, vient nous voir et nous dit, voilà, vous allez payer, vous êtes garant du projet EADM, vous êtes portier caution, vous allez payer à la place de EADM. Mais on va payer pour quoi ? Finalement, pour rien. Imaginons un instant que le syndicat mixte fasse l'objet d'une procédure collective. Qu'en est-il ? On aurait tout perdu. Donc l'objectif est de vraiment sortir de cette opération déjà en parfait accord avec EADM, mais surtout de renégocier des conditions de sortie éventuelles, sauf à EADM, mais là aujourd'hui ils n'ont pas la solution. Ils m'ont dit hier après-midi, on n'a pas la solution technique pour trouver un équilibre financier pour l'opération Belan, compte tenu du marché actuel. Donc, nous aurons des échanges, mais il y aura certainement une décision relativement urgente à prendre, enfin, en tout cas, pour l'année 2017, parce que nous pourrons être exposés à payer pour un projet qui ne pourra pas se faire dans l'immédiat.
Voilà, je pense qu'on a été totalement transparent sur le dossier, Monsieur De Heyper.
Trois points. Normalement, on doit avoir un compte-rendu annuel à la collectivité. Est-ce que ça, on peut l'avoir ? Parce que je pense que vous en êtes destinataire. Ça reprend la totalité, ça reprend la totalité du financement
du
projet,
etc. Pas de problème.
Donc il a été j'ai à disposition celui qui a été fait sur l'année 2013. Donc il doit exister.
C'est typiquement un dossier, monsieur de Ripper, vous pourriez être parfaitement utile. Hein.
Excusez-moi, j'ai dit trois points. Donc je dis, est-ce que je peux avoir.
Oui, oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui.
Deuxième point, est-ce que je peux avoir accès
au. S'il a été fait, en tout cas.
S'il a été fait, s'il a été
oui,
fait.
Oui, s'il a été fait, il sera à votre disposition, bien évidemment. Comme tous les deux. Comme tout. On en a pas.
Ah, le crack, il n'y a pas eu de crack. On leur a demandé plusieurs fois, mais j'ai dit, attendez, on attend toujours le crack 2015. Crack 2015, j'ai dit, écoutez, sa directrice financière était là. Et, enfin, on l'appelle le crack, le rapport, hein, on est bien d'accord. Hey, mais le crack, bah, écoutez, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a, y a rien de neuf.
Bon, d'accord.
Voilà la réponse qui m'a été donnée.
D'accord.
Alors, non, mais c'est de Ripper. Je suis d'accord avec vous. J'étais énervé hier parce que je dis.
J'ai rien dit, j'ai pas porté de jugement.
Vous pouvez. Hein.
Deuxième point, est-ce que je peux avoir accès au dossier? Et troisième point, est-ce que vous pouvez nous tenir informés régulièrement de l'évolution de ce dossier?
Les deux réponses sont oui. Et à chaque fois que vous demandez des pièces, et qu'elles sont communicables, je vous les communique comme d'habitude. Donc, aucun souci. Merci à tous. Le conseil municipal est terminé. Il est 11h22. Passez tous un bon week-end.